Alors attends, je continue à tousser un bon
oh
coup
là
là.
Ah, j'ai...
ah ouais, tu vas arrêter ça.
Ce ne sera pas le pré-épisode, d'accord. Ce ne sera pas le pré-épisode.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries.
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer. Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Juan.
Bonjour.
Ça va?
Mais ça va?
Très bien.
Monica.
Oui, bonjour.
Ça roule?
Super.
Bien rentré de vacances?
On a besoin d'aide pour déménager.
Quoi?
Quoi?
On a trouvé un appart!
Ah, ouais. Félicitations!
Nous sommes maintenant voisins!
Ah, j'ai hâte! Hicham?
Salut!
Ça va?
Ouais, tranquille!
Karim?
Oui, ça va très bien, j'ai trouvé un appartement, je suis content!
Ah, bah chouette! Et on a une invitée aujourd'hui aussi, oh. Et c'est Fanny de Passion Médiviste!
Oui, bonjour!
Comment ça va?
Ça va très bien, je suis vraiment très contente d'être avec vous!
Ah,
c'est
ravi
de t'accueillir!
Ça nous fait plaisir aussi, depuis le temps qu'on discutait, bah, c'était l'occasion de t'accueillir!
Ouais,
on a fini notre super studio!
Il est magnifique.
Ah, c'est gentil.
Je suis très très jalouse.
Ah, ça fait plaisir. On va pouvoir inviter plein de gens chouettes, ça va être bien bien cool.
Absolument.
Yeah. Et puis bah c'est notre 10e épisode, donc félicitations.
Bravo.
Faire un
bravo.
Petit
bravo.
Bravo tout le monde.
Comment te sens-tu, Ilias?
Ça fait plaisir. Comme une maman qui vient d'accoucher. Fatiguée mais heureux.
En même temps, avec ou sans péridural?
Du coup, sur cette belle parole.
Couché sur 10 heures. Quoi.
Juan, de quoi tu nous parlais? On va faire un petit tour du sujet.
C'est une bonne question, ça. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de vieux métiers. En fait, je réfléchissais aux nouveaux métiers, genre community manager, etc. On sait pas toujours ce qu'ils font. Mm-hmm. Et je me disais qu'il y a des métiers qui ont disparu en même temps.
Ok, cool. Monica.
Moi, je vais vous donner quelques conseils pour lire de façon critique les articles de presse.
Ah, parfait.
Et
du recoupage de sources, j'aime beaucoup. Hicham.
Eh ben, moi, je vais parler, en l'honneur de Fanny qui est ici en face de moi, des expressions du Moyen-Âge.
Mmh. Cool. Karim.
Collaboration musicale insolite.
Ah, j'ai hâte d'écouter
spécialité
ça.
Rap français.
Ça va être cool, ça m'aurait étonné.
C'était mon option au bac.
Oh, alors,
spécialité fado, ça aurait été étonnant quand même. Ok, et Fanny?
Moi, je vais parler de l'Antarctique, en fait, comment ça a été découvert et comment ça a été conquis.
Ah, formidable. Le grand inconnu.
Précise que Camille n'est pas là aujourd'hui.
Oui, voilà.
Oui, malheureusement.
Ça devait être le meet-up ultime.
Donc, notre caution historique sera Fanny. Donc, je le répète, hein, pour ceux qui écoutent, de Passion Médiviste, donc podcast sur... Bah, tu peux peut-être nous en parler.
Bah oui, bon, au début, je voulais faire un truc médiéval, mais je me suis dit, non, justement, je vais pas empiéter sur le terrain de Camille, bon, voilà. Mais ouais, du coup, je fais un podcast qui s'appelle Passion Médiviste, où j'interview des jeunes chercheurs sur leur sujet, qu'ils soient en master ou en thèse. Et donc, c'est à la fois le portrait d'un chercheur, mais aussi de son sujet. Donc, j'en ai déjà sorti 5-6. Et c'est mensuel pour l'instant.
Ah bah c'est cool, oh, et on vous conseille, c'est vachement bien.
Très bien.
Les sujets sont très intéressants et puis c'est toujours, c'est assez léger, c'est sur format court. Donc ça s'écoute très très bien, c'est super intéressant.
Pour ceux qui sont très néophytes et qui savent pas trop dans quoi ils se lancent, moi j'avais commencé avec celui sur les dragons, c'était l'épisode 2 je crois.
Aussi.
Je pense que c'est un sujet assez large pour rentrer dedans si on est assez néophyte et c'est très agréable à écouter.
Et il y a le 3 aussi, on parle beaucoup des dragons mais le 3 c'est le roman de renard, je trouve que ça parle quand même beaucoup aux gens. Parce
moi c'est mon préféré.
Oh, bah c'est gentil. Bah, parce que beaucoup de gens l'ont étudié le roman de renard au collège. Enfin, ça dit quelque chose. Et je trouve que mon invité, Paul, en parle plutôt bien. Donc, je vous conseille aussi.
Et ça me fait penser à Fantastic Mr. Fox. Donc,
voilà.
En tout cas, je pense qu'on vous laissera faire un hors-série avec Camille, toutes les deux.
Ah ouais,
mais j'en rêve.
On est trop chaud.
Mais j'en rêve.
Jusqu'au petit matin.
Et bah, du coup, allons-y pour le sujet. Bah, je vais ouvrir la danse, puisqu'encore une fois, personne m'a demandé ce que j'ai à raconter.
Ah, ah oui,
Camille n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux faire?
C'est vrai que
pourquoi,
c'est là, quoi.
Pourquoi je viens toutes les deux semaines, quoi? Je ne sais pas.
Bah, parce qu'on est chez toi.
Sinon, on n'a pas la clé.
Ouais, c'est juste. Mais voilà, Camille n'est pas là, tout fout le camp.
Moi, je sais de quoi tu veux nous parler.
Allez, vas-y, Ilias, dis-nous de quoi tu vas nous parler.
Tu vas nous parler des petits chiens-chiens qui sont très mignons et qui vont servir à marcher droit.
Ouais, bah.
C'est complètement obscur.
Ouais,
quoi?
Allez, je l'expliquerai mieux.
Les chiens d'aveugle.
Allons-y.
Ah.
L'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit.
C'est pas pour les petits chiens, la dent était fixe.
Voilà, c'est un de mes jingles préférés.
Meilleur générique ever.
Bah c'est gentil. Alors justement, sujet chien d'aveugle, chien guide, c'est un sujet qui nous a été proposé par Patrice sur Facebook.
Merci
donc,
Patrice.
Je me suis dit que j'allais répondre à ces
Big
questions.
Big up ma
très sympa, il nous a proposé d'autres d'ailleurs qu'on traitera à l'avenir. On a déjà des petites idées. Alors sa question c'était, bah, en fait, comment sont entraînés les chiens guides et pourquoi tous les aveugles n'en ont pas? effectivement intéressant. Donc on va commencer par qu'est-ce qu'un chien guide, globalement. C'est assez simple. En gros, un chien guide, ça va être... déjà, il a un travail, en fait. Et son travail, c'est d'accompagner son maître, qui va être aveugle ou malvoyant. Il y a une différence entre les deux. Et qui va lui faire de compagnon, en fait, dans sa vie quotidienne, pour l'aider à avoir plus d'autonomie, etc. Et il va être capable de lui indiquer les obstacles, trouver le passage clouté, trouver les bouches de métro, etc. Donc ils sont très, très intelligents, très très forts. Ils sont même capables, par exemple, de reconnaître les, vous savez, les tourniquets de métro, ceux qui sont fonctionnels et ceux qui sont en panne, grâce à la signalétique. Énorme. Et ouais.
Avec la signalétique, genre les gros rubans, enfin ils sont...
Non, la croix, t'sais, la croix rouge et le petit truc vert, ils sont capables de voir lesquels sont bons ou pas.
Ils sautent dessus pour regarder.
Mais non, mais
c'est devant toi.
Ah, c'est devant, oui, c'est vrai qu'il y a une plaque devant. Parce que moi, je me disais, c'est là où tu passes ton
avion. C'est à hauteur de truc.
Tu ferais pas un bon chien guide. Hein.
Ouais. Et tu crois que ça a été fait exprès pour les chiens que ce soit à hauteur? Parce que ça sert à rien, on le voit par-dessus. Quand c'est...
Oui, je pense. Ça ne fait aucun doute.
Ah, pour les enfants, c'est vrai.
Posez votre truc ici.
Allez, on enchaîne.
Allez, vous me saoulez.
Non, ce qui est intéressant en fait pour le chien guide, c'est que c'est pas du tout un esclave pour son maître. En fait, ça va plus être comme un compagnon paramédical que vraiment un esclave qui va obéir au doigt et à l'œil, et on verra pourquoi plus tard. C'est intéressant parce que c'est une pratique qui nous vient des, on va dire, du milieu militaire des forces armées, enfin des forces de l'ordre. En 1915, c'est la création du premier centre d'éducation pour chiens guides pour aveugles. C'était uniquement réservé aux aveugles de guerre, en fait, donc c'était un centre qui était en Allemagne. Et en 1951, c'est la première fois qu'en France un centre est créé, un chien est formé pour ça, et en 1905, donc par monsieur, pardon, Paul Corteville, et qui était un ancien dresseur en fait de chiens policiers, il donne ce chien en 1952 à un de ses potes qui était aveugle, quand même sympa le mec.
C'était des chiens pour policiers ou c'était des policiers chiens autonomes?
Ah, c'était des policiers chiens, bien évidemment.
C'était des pervenches chiens.
Voilà, et puis à partir...
Pourquoi tu crois que les plaques d'immatriculation c'est aussi bas?
Vous me fatiguez.
Courage, voilà, j'enchaîne.
À partir de 1952, en fait, il y a plein d'assos qui se sont créés, une fédération nationale des associations, et elles ont été reconnues d'utilité publique depuis les années 70. Donc, c'est quand même pas mal. Et il faut savoir, petit détail, que ces assos fonctionnent à 80% grâce aux dons. Donc, n'hésitez pas à donner un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir.
Donnez à nous, on vous jure, on leur donnera.
Non.
Je m'en occuperai personnellement.
Donnez à eux directement.
Des chiens, on donne des chiens.
Non, de l'argent.
Non, mais Karim, tu feras des heures de chien aveugle dans la semaine.
Justement, tiens, on va commencer par parler des bénéficiaires. Donc, qui a droit à un chien guide? Comme on le disait, en fait, c'est pour les aveugles, mais pas seulement, parce qu'il peut y avoir des déficits de la vue qui permettent de voir globalement, mais qui permettent pas de se déplacer en toute autonomie dans la rue. Donc, des personnes malvoyantes peuvent aussi demander un chien guide. Et pour en obtenir un, c'est très simple, il suffit de faire une demande à une association, en fait. C'est aussi simple que ça. On leur fait une demande et après, leurs équipes vont accompagner la personne en situation de handicap pour évaluer son handicap, pour évaluer son autonomie aussi, parce qu'on peut avoir un chien guide que si on est autonome à la canne, parce qu'il faut savoir se repérer, etc. Globalement, le chien, en fait, c'est son maître qui va lui donner des ordres et des indications. Le chien, il va pas l'emmener tous les matins au taf en mode « Vas-y, Michel, t'es à la bourre. »
Ouais, il fait pas le café non plus, quoi.
Il pourrait, en fait, il pourrait, mais
il
pourrait
que cette ruffe.
Voilà, il pourrait que si son maître lui demande fait du café. Ah oui, oui. C'est là que tout est changé.
C'est super impressionnant les chiens aveugles. Moi, je me rappelle la première fois que j'en ai vu vraiment en action, c'était quand je suis arrivé à Paris, quelques années de ça quand même.
Jadis.
Où vraiment je voyais la station de métro avec le chien qui s'arrête, qui lève la truffe, qui met un coup de fesse dans les jambes de son maître et il se barre. Je fais sérieux. Même moi je savais pas reconnaître.
Elle est où, la caméra?
Je voyais Strasbourg-Saint-Denis, moi je savais même pas où c'était, le chien il savait lui. Bon.
C'est vrai qu'elle est mal foutue cette station, il n'y a pas tous les arrêts qui sont indiqués.
Ouais, c'est vrai.
C'est très pénible.
C'est vrai.
C'est le monsieur qui s'occupe de ça.
On a un appel de Captain Digression.
De toute façon, les chiens guides ne savent pas lire, hein, c'est pas très très grave.
Ils pourraient.
Et puis aveugles non plus. Mais passons. Donc effectivement, l'équipe va accompagner la personne en situation de handicap pour évaluer donc l'ouïe, l'odorat, perception des dénivelés, c'est important, et des distances parcourues. En fait, c'est comme nous quand on se balade dans la rue. Globalement, n'importe qui, enfin, on a quasiment tous un pote qui sait pas se repérer, qui a un sens d'orientation pourri.
Oui.
Et malgré le sens de la vue, on a un sens d'orientation pourri. Et quand on va d'un point A à un point B, on connaît pas tout le chemin, mais on sait que tiens, genre la boulangerie, je vais à gauche, machin. Et ben, un aveugle, c'est pareil. Il va approcher d'une boulangerie, il va sentir l'odeur du pain, il va dire au chien, ok, on va à gauche, etc. Donc c'est important qu'il puisse se repérer et qu'il soit autonome. Maintenant, à votre avis, ça coûte combien l'entraînement d'un chien guide?
1000 milliards. Alors, je sais que ma tante en élève un en ce moment. En fait, j'ai ma tante, c'est à côté d'Avignon, une association, c'est des chiens d'aveugles pour enfants. Donc là,
trop
fait,
cool.
Ouais, il y en a très peu en France.
C'est,
et là,
c'est des chiots d'aveugles.
Merci pour cette précision.
J'ai pas osé le dire.
Pardon. c'était vraiment utile comme précision.
Non, mais c'était super marrant.
Pardon, vas-y.
Non, et pour enfant. Et du coup, elle l'élève et il est vraiment trop, trop mignon. Et là, juste pendant un an, elle l'élève en famille. Donc, il va être comme un chien normal, mais juste quand elle le promène, elle le tient bien en laisse. Elle lui met une sorte de petit étendard pour qu'il dise « Je suis un chien aveugle, ouais. Attention. » Et après, pendant un an, elle va l'avoir que le week-end. Et la semaine, il sera un peu genre en formation.
Mm-hmm. Il va à l'école.
Mais ouais,
c'est, ça, c'est exactement
ouais,
ça.
C'est un
il a cours à 9h.
Donc, voilà. Donc, j'ai vu un peu et... Déjà, il obéit vachement. Alors, je l'ai vu, il a 5 mois. Il est déjà très obéissant. C'est la première fois que je vois ça. Il est tellement
mignon.
Il est vraiment adorable.
Ah, du coup, transition parfaite. Donc, je donnerai le prix. Ouais, j'ai juste donné le prix à Bion pour répondre à la question à laquelle personne n'a répondu. En fait.
50 000 euros.
Non, en fait, alors, l'entraînement coûte entre 15 000 et 25 000 euros. Mmh. À une chose, près. Et pour la personne qui bénéficie du chien, en fait, c'est gratuit.
Ouais, c'est ce qui me semblait.
Donc, oui, Hicham.
Oui, c'est 15 000 euros, mais pendant combien de temps? Enfin, il est formé en combien de temps
global. Alors bah, justement, je vais parler de l'entraînement après. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit donc pour les personnes qui en ont besoin. Et en fait, le chien est mis à disposition de la personne en situation de handicap. Je vais dire ça de manière plus courte d'ailleurs, c'est beaucoup trop long. De l'aveugle, faisons un amalgame. donc il est mis à disposition, mais c'est toujours la possession de l'association. Et après, bah, une fois qu'il aura fini son travail, qu'il sera à la retraite, l'association va le reprendre et lui trouver une nouvelle famille pour qu'il puisse vivre des jours heureux. Donc on parlait de l'entraînement, Fanny t'en parlait, effectivement, bah, ça commence très tôt, en fait on recherche déjà principalement des chiens qui sont socialement équilibrés, qui vont être curieux, qui vont pas avoir d'esprit de rébellion, etc.
Et... Non, c'est mort, j'y verrai pas ce transplendier.
Non, mais surtout qu'ils sont équilibrés émotionnellement, en fait. Et c'est super important que les chiens soient heureux et à l'aise avec l'homme.
Du coup, il y a des psys pour chiens.
Bah, il y a des comportementalistes animaliers, etc. Même quand un aveugle demande un chien guide, il y a une personne qui va étudier sa compatibilité avec les chiens parce qu'il y a différentes races. Justement, pour les races,
arrête l'alcool tout court, parce que là.
Alors, il y a des races qui sont favorisées, donc je vais vous passer les détails, mais Labrador, Golden, des bergers, etc. Et il y a aussi une race qui m'a beaucoup surpris. Et caniches royaux.
Ah, c'est super drôle
un
ça.
Un putain de caniche royale, ça peut être chien guide.
C'est pas très moche, non.
Parce c'est que très la rigolo en tout cas.
Ça dépend comment tu le tombes.
Ouais, ouais, voilà. Mais l'avantage, c'est que l'aveugle le voit pas. Donc c'est pas que. Si tu lui dis c'est un berger allemand, il te dit oui. Enfin, bon. Non, maintenant, en quoi consiste la formation? Bah, comme vous le disiez, en fait, c'est une vraie formation. En fait, il a l'école, etc. Ça va commencer, bon, il va quand même naître, déconnons pas. Mm-hmm. Il va naître bah, à la nursery, ça va être un peu l'école maternelle pour eux. Et globalement, les chiens viennent de familles d'élevage pour un peu sélectionner les races, etc. Et dès sa naissance, en fait, on va porter une grosse attention aux chiots, on va les stimuler beaucoup avec des jeux, des objets, etc., voir comment ils réagissent.
Des Lego.
Ouais, non, mais vraiment plein de jouets. Et l'idée, c'est de voir comment ils réagissent, avec s'ils sont aptes à faire ça, s'ils sont attentifs aux humains, etc. Et pour ceux qui sont retenus, bah, ils vont pouvoir passer à la phase 2.
J'imagine. Bon, alors Rex, troisième trimestre, encouragement.
Pas terrible.
Il va falloir faire des efforts.
Ouais, c'est ça. Bah, du coup, si ça va, en fait, ils sont un peu surdoués, les chiens guides. Donc, ils passent directement de la maternelle au collège-lycée en internat. C'est la famille d'accueil. Donc, à partir de 2-3 mois et jusqu'à un an à peu près, ils sont en famille d'accueil. Et les familles d'accueil, bah, déjà, c'est des bénévoles. Donc les familles d'accueil, l'association leur paye le veto et les croquettes, mais la famille doit fournir...
C'est un budget les croquettes.
Eh ben ouais, déconne.
Surtout quand c'est un golden retriever, quoi.
Ça bouffe plus qu'un caniche royal.
Oui, bah oui, oui, certainement. Et donc effectivement, la famille, ce qu'elle doit faire, en fait, c'est pas elle qui va éduquer le chien, mais elle doit déjà fournir une présence au chien, donc il doit pas être laissé seul plus de 3-4 heures. Donc faut l'emmener avec, bon, sachant qu'un chien guide ou un apprenti chien guide, on peut l'emmener partout, on a le droit de l'emmener partout, dans l'avion, dans les transports.
Et même il l'oblige en fait, je sais que ma tante, il lui conseille vraiment de l'emmener vraiment partout pour qu'il soit habitué au monde, habitué vraiment au bruit et tout ça.
Et légalement, dans un lieu public, on ne peut pas te refuser l'entrée du chien.
Ça me donne super envie de le faire. Donc, je pourrais me pointer au taf avec mon chien et je fais « Eh non mon gars, chien guide
!» Non, bah non, c'est privé.
Comment ça, c'est privé?
C'est un espace privé au boulot. Mais bon, tu peux négocier avec ton employeur.
Ouais, vraiment au boulot, tu penses qu'ils ont le droit de te refuser l'accès?
Mais t'es aveugle?
Mille fois.
Bah oui. C'est une raison parmi tant d'autres de te virer.
Si t'es un chien guide.
Bah, bon, bah si t'es aveugle, oui, mais pas si t'es pas aveugle. Bah, mais bon, allez, on enchaîne.
Ok.
Mais donc là, du coup, il fait son collège-lycée en internat avec sa famille d'accueil. De temps en temps, il revient à l'école. La famille, globalement, elle va lui apprendre uniquement à bien se conduire, donc pas monter sur le canapé, pas tout défoncer à l'appart, pas voler de la nourriture, etc. Enfin, être un bon chien, marcher à gauche, etc. Oui, marcher à gauche, c'est important. Mais il va quand même retourner de temps en temps à l'école pour apprendre deux, trois petits tricks et puis être suivi quand même.
Ouais, il est en alternance, quoi.
Mais c'est exactement
ça. Est-ce qu'il a un mémoire à la fin de l'année à rendre ?
Non, mais il a la retraite, on en parlera.
T'arrêtes de dire la même blague en boucle.
C'est trop drôle.
Donc une fois le collège, lycée, internat, donc la famille d'accueil finie, quand il a un an à peu près, il va retourner à l'école avec des vrais éducateurs. Donc il faut savoir qu'il y a un diplôme d'éducateur pour chiens d'aveugle. Donc c'est 2 fois 2 ans en alternance. Donc c'est 4 ans au total, ça a changé assez récemment. Et c'est reconnu par le ministère de l'Agriculture, je ne sais plus quoi. Voilà, vous le savez maintenant.
On parle du diplôme du chien ou du...
Bien sûr, bien sûr. Putain.
J'ai compté 7 fois.
Donc à partir de 1 an, le chien retourne à l'école et c'est là qu'on va lui apprendre en fait 3 choses qui vont être vraiment fondamentales pour pouvoir accompagner une personne en situation de handicap. C'est déjà la reconnaissance de mots-clés, donc ça va reconnaître une porte, une chaise, un passage clouté, etc. Donc c'est important qu'il comprenne que c'est ceci, cela, etc. Apprentissage du comportement à adopter avec une personne aveugle ou malvoyante. Donc par exemple, pour une chaise, quand on lui dit « cherche la chaise », il doit poser sa tête sur la chaise pour pouvoir indiquer l'endroit où s'asseoir à la personne qui est aveugle. Pour un escalier, il va poser les deux pattes sur la première marche pour lui indiquer où c'est et lui indiquer qu'il y a une pente à cet endroit-là, etc. Donc voilà, toutes les choses à faire.
Mais s'il est aveugle, il voit pas...
Il touche le chien.
Le chien n'est pas aveugle.
Est-ce qu'il y a une précision que j'ai pas faite ? Le chien n'est pas aveugle.
Non, j'ai cru que le chien, il posait ça.
C'est possible, on appelle ça le niveau expert.
On pourra essayer avec les chiens aveugles pour chien guide d'aveugle. Enfin, on verra bien.
Les hamsters d'aveugle.
Les chats d'aveugle pour les chiens d'aveugle.
Je suis pas aidé. Et le troisième truc, c'est la reconnaissance d'obstacles. Et ça, c'est un truc super important. L'idée, c'est que le chien, vous voyez, un chien, c'est petit, c'est agile. Globalement, ça peut passer pas à peu près partout, mais ça peut passer à plein d'endroits. Mais le chien doit reconnaître les obstacles qui sont pour l'homme, en fait. S'il y a une barrière qui a 1m20 de haut, lui, il pourra passer, mais il faut qu'il comprenne que son maître ne peut pas. Il faut qu'il comprenne qu'il doit marcher sur le trottoir et pas sur la route, etc. Pour pas mettre en danger son maître. Par contre, ce qui est intéressant, comme je le disais au début, on cherche pas un esclave qui va obéir à tout prix. On cherche justement, on apprend au chien à désobéir aux ordres, en fait. Parce que si son maître lui donne un ordre qui va le mettre en danger, le chien doit désobéir. Il ne bougera pas, il ne fera rien. Donc si son maître lui dit, je sais pas, genre avance alors qu'il y a une barrière ou un truc comme ça, il va pas bouger.
Il va dire, je suis pas ton chien.
Non, mais par contre son maître va lui dire, cherche une solution, et là le chien va trouver une solution de contournement. Donc là, même si on lui a appris à pas le faire, il peut justement exceptionnellement passer sur la chaussée pour contourner une voiture qui s'est garée comme une merde ou autre.
C'est génial.
Il garde son libre arbitre.
Ouais, mais c'est vraiment ultra touchant, c'était vraiment la préparation de sujet la plus choupie de la Terre, parce que j'ai eu plein d'émotions, plein de petits choupis, ouais. Plein de trucs, c'est trop cool.
Attends, t'es en train de dire que ton sujet est fini ?
Non, presque. Niveau de l'éducation, en fait, de la formation des chiens, c'est une méthode naturelle. Donc c'est beaucoup sur le renforcement positif, encouragement systématique du chien, et on évite absolument toute réprimande pour justement avoir une relation pérenne avec l'animal, etc. Parce que c'est pas du tout rentable d'éduquer par la peur, en fait.
Donc, sauf quand il mange le poulet, je témoigne. Là, on peut l'engueuler.
Tu manges pas le poulet !
C'est mal.
Idiot !
En plus, il était vivant, putain, ça fait chier.
S'il était aveugle. Ouais.
Et à deux dernières petites étapes, donc il y a la vie avec son maître. Donc avant de remettre le chien à son maître, on fait un petit stage de remise et puis on lui apprend à communiquer avec son chien, en fait, à donner les bons ordres, etc. Et globalement, le chien va vivre avec son maître pendant 8 à 10 ans, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est assez touchant comme relation parce que ça dure longtemps et puis ils partagent tout dans la vie, en fait c'est assez fou. Et puis voilà, ce qui est important aussi, c'est que c'est, comme on disait, c'est pas un esclave, c'est que c'est un chien qui peut et qui doit jouer. Donc le maître a la responsabilité de jouer avec son chien pour s'occuper de lui, pour qu'il puisse se dégourdir, pour qu'il puisse s'amuser, etc. Donc tous les jours, ils doivent entretenir cette relation. Une fois qu'il va finir sa mission de 8 à 10 ans, c'est la retraite. Donc il va revenir à l'école et puis l'école va lui trouver une nouvelle famille d'adoption. Il va pouvoir finir sa vie avec plein de papouilles et de jeux.
Mignon.
À quel moment on décide que le chien est prêt pour la retraite ?
En fait, il est suivi.
Quand il a assez cotisé.
ça dépend des lois en cours.
Il met des croquettes de côté tous les mois. Non, en fait, c'est pas principalement par rapport à sa santé. Ils ont pas mal de problèmes d'articulation. Et donc, par rapport à ça, on veut pas les faire souffrir, les mettre en galère. Et aussi mettre en danger les maîtres. Oui. Donc, c'est principalement par rapport à ça. Okay. Donc, une fois qu'il a fini, il passe à leur trappe, il vit des jours heureux. En petite conclusion, rapidement, déjà, je vous encourage à faire des dons à ces associations. Parce qu'elles vivent principalement par ça. Donc, un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et puis, rapidement, avec mes recherches, en fait, j'ai trouvé pas mal d'interactions chien-humain qui étaient vachement bien, où il y a des chiens qui sont utilisés pour accompagner les personnes atteintes de stress post-traumatique, de paralysie cérébrale, etc. Et c'est ultra touchant parce que les chiens sont monstrueusement forts et ça change la vie des gens, en fait. C'est impressionnant à quel point ça change la vie et ça leur donne de l'autonomie.
Là, du coup, en écoutant ta petite rubrique, là, je me sens un peu mal parce que, une petite anecdote, quand j'étais étudiant, il y a justement une association de chiens d'aveugles qui m'a appelé. Et ils m'ont demandé, oui, est-ce que vous voulez donner de l'argent ? Et du coup, je me suis dit, oui, allez-y et tout, mais en fait, je ne voulais pas du tout. Du coup, il m'a envoyé une lettre avec une petite peluche de chien.
Oh.
Et sauf que j'étais étudiant, donc bah, je ne savais pas gérer. Et j'ai pas donné.
Donc ça se mangeait pas, je m'en foutais.
Et bah, je suis vraiment désolé.
Et
du
bah,
coup,
dès demain, profites-en pour donner en double.
Ça marche, ok.
Et voilà, bah, du coup, sur, après ce sujet sur le chien, je dirais juste dans vos truffes, les chats, vous savez pas faire ça. Voilà.
Ouais, bien. Oh. Oh. Si j'ai le droit, j'ai une question.
Vas-y.
Du coup, est-ce que le chien se rend compte du handicap de son maître et qui fait la différence entre les voyants et les non-voyants ou pas? Est-ce que t'as vu ça par hasard?
Non, bah forcément, en fait, il va répondre à des ordres. Donc globalement, il a appris à faire certaines choses. Et puis quand un voyant va lui comment dire, interagir avec lui normalement, enfin normalement comme son maître, ouais, il va réagir de la même façon.
Ok.
Voilà. Il lui fait pas un diagnostic.
Ma foi.
Et bah du coup, on va mettre en...
Bah déjà, c'était cool, bravo.
Et bah, merci.
Ouais. Oh bah c'était cool.
Trop
très
choupi.
Intéressant comme sujet.
Merci, merci.
Qu'on va mettre la North Face.
Ouais, allez.
On va aller faire un tour en Antarctique.
Explorer de nouveaux mondes étranges. Découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
C'est pas possible. Il fait au moins 8000.
Bon, il fait pas moins 8000 en Antarctique, mais il fait quand même très froid. Donc moi, je voulais faire la transition avec le sujet de Mina, le dernier podcast sur le réchauffement climatique. Mm-hmm. Elle a parlé un peu d'Antarctique, donc je vais vous raconter en fait comment l'Antarctique a été découvert, comment il a été conquis, et si j'ai un peu de temps, je raconte comment il a été réparti en fait entre les pays du globe, comment ils se sont dit, bah, tiens, ça c'est ma partie, ça c'est ma partie.
À toi le micro.
Donc déjà, juste, je vous commence ce petit rappel sur ce que c'est l'Antarctique. Donc c'est quand même un continent géant qui fait 14 millions de kilomètres carrés, donc c'est à peu près 20 fois la France. Et c'est recouvert à 98% de glace. Et en moyenne, la glace, elle fait 1,6 km d'épaisseur.
C'est marrant parce que pour les auditeurs, elle fait 1,6 km entre ses deux doigts. C'est assez ridicule.
Je d'accord. souhaiterais t'interrompre avant qu'on continue.
Vas-y.
Histoire de mettre
commence, tu veux
les choses au clair. C'est bien en bas, l'Antarctique.
Oui.
Okay,
mais
merci.
Justement, je vais, dans la chronique, je vais te l'expliquer. Alors donc bon, vous savez, c'est l'endroit le plus froid, le plus sec, le plus venteux au monde. Techniquement, c'est le plus grand désert du monde parce qu'il n'y a pas de précipitations, il y en a très peu. Il n'y a pas d'habitat permanent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et donc, en effet, l'Antarctique, ça n'a pas connu de population indigène. Il n'y a pas de gens d'Antarctique, en tout cas, pour l'instant.
Il n'y a pas les igloos.
Ils n'auraient pas pu y accéder, de toute façon.
Bah, après, on ne sait pas encore. Mais pour les animaux, donc, on trouve des espèces qui sont que hyper résistantes à ces conditions. Donc, on a donc, les manchots qu'on a vus dans la marche de l'Empereur. Là. On a les phoques, on a des poissons, les crustacés. Donc, à votre avis, quand est-ce qu'on a découvert l'Antarctique? Quand est-ce qu'on a marché dessus la prochaine?
Moi, je suis nul en date. Camille n'est pas là.
19e siècle.
Moi, j'aurais dit 19e aussi.
16e.
Quand ils avaient des gros manteaux.
Eh bien, c'est presque ça, parce qu'on l'a aperçu, mais vu de vrai pour les vrais yeux, en 1820.
Ah.
Et a priori, mais c'est pas sûr, et je vous dirais, enfin, il y a des controverses, on a marché dessus en 1821, donc l'année d'après.
Bah
donc,
voilà, on est en plein dedans.
Mais qui devait se cailler les miches, pardon.
Mais après, depuis très longtemps, on se doutait qu'il y avait quelque chose, c'est-à-dire que même Aristote, il avait fait une théorie comme quoi il pensait que donc, la Terre était sphérique et qu'il y avait forcément des pôles, donc il se doutait qu'il y avait quelque chose d'opposé, donc ça avait un nom. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire Antarctique?
C'est ce qui n'est pas arctique.
C'est l'inverse de l'Arctique.
Eh ben, alors, vous avez raison. Mais du coup...
Ouais.
Vous êtes vraiment des champions.
Merci.
Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Arctique? En fait, Arctique, ça vient du grec akos, qui veut dire l'ours. Et pourquoi l'ours? Parce qu'en fait, la constellation de l'ours indique le nord. Donc en fait, Antarctique, anti-nord. Donc en fait, c'est l'opposé de l'Arctique. Donc c'est l'Antarctique au sud.
Okay. Ils auraient pu appeler ça le sud.
Ouais, mais ils étaient inspirés, les Grecs.
Le plus sud du sud.
Donc, pour la connaissance, je suis sûre que vous connaissez. En fait, le premier navigateur qu'il a à peu près aperçu, c'est un certain Magellan. En 1520, quand il a réussi enfin à contourner le cap au sud, qui s'appelle donc le
Détroit de Magellan.
Voilà.
Putain, je sais un truc.
En fait, au sud, il a aperçu une sorte d'épais il voyait qu'il y avait quelque chose de très froid, avec un grand brouillard.
Tu vois le froid avec tes yeux, toi?
Ben oui, lui, parce qu'en fait, voilà, il sentait qu'il y avait des souffles froids et vraiment, il voyait quelque chose d'épais avec vraiment des petites îles.
Aussi. Un gros glaçon.
Donc en fait, d'après ces observations, on s'est dit qu'il y avait un immense continent qu'on a estimé déjà à l'époque que ça s'étendait entre la Terre de Feu en Argentine et l'Australie. Et c'est pour ça qu'on a appelé la mer qui était là-bas la mer Australe. Et donc plus concrètement, là, c'est surtout à partir du 18e siècle que des navigateurs ont réussi à atteindre les terres les plus au sud du globe, parce qu'en fait, notamment, on a un explorateur français qui s'appelle Yves-Joseph de Kerguelen qui a découvert en 1772 les Les Kerguelen.
Faut pas compter sur moi.
J'allais dire le Carglass, mais non.
Mais non, voilà, on a un tout petit territoire français qui est vraiment paumé entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Et ben, c'est les Kerguelen, c'est tout au sud. Où... Il y a des gens là-bas, si vous voulez y aller.
C'est quand même loin, l'Afrique du Sud et l'Australie.
Eh oui, eh oui, mais c'est, tu vois la carte, les Kerguelen, c'est paumé. Bon, ouais. Là, c'est quand même au nord de l'Antarctique.
Bien malin, plus au sud.
Mais c'est très difficile d'accès, ça, cet endroit.
Ah oui, très très bien.
Il y a trois pélos dessus.
Alors, Ryanair, il va pas
non, y a...
non, non, tu peux vraiment très difficilement y aller.
Ouais, ouais, mais y a... je crois que tu peux y aller en... entre guillemets, entre touristes bénévoles. J'ai vu qu'il y avait
des. En bateau, oui, parce qu'il y a des expéditions, mais enfin, moi, je peux pas dire demain, j'y vais, quoi.
Bah, apparemment, j'ai vu qu'il y avait 6 des gens qui pouvaient y aller, mais qui en gros vont être bénévoles pour aider les scientifiques sur place. Et tu peux y aller
pour
tu...
faire la vaisselle, jamais. Cuisine.
Bah non, mais j'avais vu ça, une nana qui racontait qu'elle était allée pendant un an, et alors qu'elle n'était pas scientifique elle-même, donc je pense que si tu veux y aller, Juan, on peut te décoter un petit peu.
Je suis super chaud, mais
l'an prochain.
Bon, du coup, après les Kerguelen, juste après, on a un mec qui s'appelle James Cook, qu'on connaît tous, qui était un grand navigateur britannique. Il a réussi, mais sans même s'en rendre compte, à faire le tour de l'Antarctique en bateau. En fait, mais sans s'en approcher et sans se rendre compte qu'il y avait une terre plus au sud. Il a fait le tour du globe, mais là, donc c'est le premier à avoir fait le tour de l'Antarctique, mais il le savait même pas.
Mais en fait, c'est tout blanc, c'est tout blanc. Enfin, je sais pas.
Mais en fait, il avait peur d'aller plus au sud parce qu'il y avait beaucoup de glace, donc il avait peur de rester coincé. Donc...
Parce que les bateaux à l'époque étaient peut-être pas non plus.
Ouais, mais il a observé en fait des champs de glace avec au loin des pics montagneux. Donc, donc là, en fait, à partir de là, c'est vraiment les gens vont se lancer sur la sur ce qu'a fait James Cook, dire non, nous, on va aller plus au sud encore. Donc, et aussi, ils vont mettre du temps. Pendant 50 ans, il n'y a personne qui va aller aussi loin que James Cook. Par contre, il y aura plein, plein de pêcheurs qui vont aller pêcher les phoques. Là, ils ont bien compris qu'économiquement, c'était sympa. Mais donc, c'est seulement, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en 1820, qu'alors un Russe, dont je ne vais même pas essayer de prononcer le nom, parce que c'est impossible.
Vas-y, ça va être marrant.
Alors, Fabian von Bellinghausen, mais je suis sûre que je
loupe. C'est vachement
non, mais
bien.
En vrai, je suis sûre que je loupe plein de consonnes et de voyelles. Donc, lui, c'est le premier à apercevoir le continent. Apparemment, donc lui au cours d'une mission. Et alors officiellement, mais seulement officiellement, c'est un Américain qui s'appelle John Davis, qui était navigateur et chasseur de baleines, qui aurait été le premier à poser le pied en Antarctique l'année d'après, en 1821. Mais en fait, sa version est contestée, mais alors c'était en anglais, c'est très compliqué, j'ai pas compris pourquoi. Mais parce qu'en fait, il n'a pas apporté de preuves comme quoi il avait bien posé le pied. Il a dit « Ouais, c'est moi !» Mais en fait, on n'est pas...
Il avait ramené un glaçon, mais il avait fondu sur la route.
Donc, c'est ça, donc officiellement, c'est lui.
Il n'a pas fait un selfie.
Ben non, malheureusement.
C'était la beauté de la conquête du monde à l'époque, tu pouvais raconter ce que tu voulais.
Mais du coup, aussi officiellement, le premier drapeau à avoir été planté sur l'Antarctique, c'est le drapeau français.
Cocorico. Oui.
En janvier 1840, un certain Jules Dumont d'Urville qui va planter son drapeau français en Antarctique orientale. Donc il a accosté avec son équipage dans une terre qu'il appelait la terre Adélie en hommage à sa femme, c'est très poétique. Et donc direct, il a dit « Je revendique cette partie pour la France ». Ça a été le premier vraiment à dire « Je revendique une partie pour la France ». Et spoiler, on l'aura eu un peu plus tard, donc c'est quand même assez
grâce à lui qu'on couillu. A un gros bout de glaçon.
Et donc après, merci. Il y aura beaucoup d'expéditions, dont celle d'un certain Ross, qui vont permettre de déduire que oui, effectivement, c'est bien un continent. Donc en fait, si vous regardez maintenant, aujourd'hui, le nom des mers, le nom des différentes terres, elles portent toutes le nom de ces premiers explorateurs, parce que c'est eux qui ont vraiment tout exploré à la base. Donc une fois qu'on est bien sûr, oui, qu'il y a un continent, on est allé l'explorer dedans. Donc en fait, il y a une petite pause quand même dans l'exploration. Ils ont repris seulement à la fin du 19e siècle. Et là, à partir du 19e siècle, c'est vraiment l'âge d'or. On peut appeler ça, même si on ne peut pas appeler ça une conquête, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vraiment conquis l'Antarctique. Hein. On sait que c'est là, mais voilà. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'expéditions très périlleuses, surtout menées par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Norvège. Et alors moi, je voulais parler d'une expédition en particulier, parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Au pays du blizzard ». Qui raconte une de ses expéditions.
Porte bien son nom.
Ah oui, non, mais vraiment bien.
Ils sont pas fait chier, les mecs.
C'est en fait en 1911, une expédition qui a été menée par un monsieur qui s'appelait Douglas Mawson. Et en fait, le livre et sont des extraits de son journal de bord. Donc, qui raconte comment, en fait, bah, voilà, ils ont fait un hibernage là-bas, donc en Terre Adélie, là où, où était Dumont d'Urville. Donc, ils sont installés pendant presque un an. Donc, il y avait déjà des petites installations, mais ils ont vraiment fait leur igloo. Ils étaient à peu près, je pense, une vingtaine. Donc il raconte comment il galère chaque jour pour sortir.
Cher journal, aujourd'hui il fait très froid.
Mais c'est ça, il raconte comment chaque jour il galère pour sortir parce que c'est vraiment quelque chose de scientifique et géographique, donc il galère chaque jour, sachant qu'il peut y avoir des vents de 300 km/h.
Donc ouais, les aujourd'hui Michel s'envolait.
Eh ben alors t'es pas très loin en fait.
Ah, merde.
Parce qu'il y a un passage qui m'a vraiment marqué en fait, et ça prouve à quel point les mecs ils risquaient leur vie à l'époque juste pour la science. À un moment en fait, ils ont lancé 3 petites expéditions pour aller explorer autour de là où ils étaient, autour de leur base. Et donc Douglas Mawson, celui qui a dont est extrait le journal. Il est parti avec son équipe. Alors, il était avec, on va dire, à peu près 3 ou 4 mecs et une dizaine de chiens. Donc, ils allaient vraiment en chien de traîneau, hop, tout droit dans telle direction pour aller explorer. Et à un moment, en fait, il y a un des équipiers qui était en queue qui est tombé dans une crevasse qui était dissimulée sous la glace. Donc, ils sont en train de courir et d'un coup, ils se retournent. Il n'était plus là.
Michel
a disparu. Mais c'est ça. Mais c'était donc en fait. Et en plus, le problème, c'est que ce mec, il avait pratiquement toute la nourriture de l'expédition avec lui.
Ah non. Il a survécu 3 semaines dans la crevasse.
Et non, mais c'est horrible à lire. C'est vraiment. Mais c'est horrible parce que du coup, ils ont essayé de voir s'il était encore là et tout, de le remonter. Et donc, bon.
Michel.
Mais malheureusement, bon, je
vais
pas tout vous raconter parce que c'est vraiment trop triste. Juste pour vous dire, parce qu'en fait, Douglas Mawson, il est revenu seul. Sans mec, sans chien et limite en rampant. C'est horrible à lire.
Ça se trouve, c'est lui qui les a bouffés, on sait pas.
Tu vends vachement du rêve pour ton bouquin.
Ouais, non, mais je veux pas vous dire parce qu'en fait, je veux pas foutre une mauvaise ambiance, mais c'était dur à lire, mais tu dis waouh.
Non, ça donne
envie. En 1911, quoi, c'était vraiment. Donc, et le petit plus du livre, c'est qu'il est illustré avec une centaine de photographies en noir et blanc. Et donc, c'est assez émouvant et on se rend compte vraiment, on voit les conditions, comment ils étaient équipés avec un énorme truc. Donc, je vous conseille vraiment de lire le livre au pays du blizzard.
Si vous voulez passer un bon samedi après-midi dans la journée.
Non, mais à part ce moment-là, en fait, c'est parce que voilà, il a.
Ah, mais je lirai, ça va être cool.
C'est bientôt l'hiver en plus.
On vous mettra la référence.
Est-ce que c'est un livre à lire dans un parc quand il fait froid ou plutôt au coin du feu selon toi ?
Bah, moi je l'ai lu l'été et je te jure que, en fait, quand je lisais, je sentais que j'avais froid.
D'accord.
Tu as l'impression d'être là-bas en le lisant, c'est vraiment intéressant. Bon, pour tout ce qui est l'exploration, le point culminant, bah, c'était la même année, en 1911. Il y a un Norvégien qui a été le premier, avec des skis et des chiens, à atteindre le pôle sud, vraiment le point magnétique. Mmh. Et ce qui était un peu difficile, parce que bon, là aussi, il y a un autre mec qui avait essayé, un Britannique. Mais lui, ils sont partis, mais on n'a pas découvert. Ils ont disparu. Ils ont vraiment disparu, parce qu'en fait, sur le chemin du retour. Mais en fait, on a trouvé leur camp, mais des mois et des mois après, le dernier camp, en fait, on a retrouvé les corps. Et depuis, il y a une grande croix en bois, avec leur nom engravé dessus, donc... Il y a quand même une.
J'aime bien qu'on ait retrouvé les corps parce qu'on a tendance à tomber dans un trou là-bas et.
Bah là, non, en fait, ils étaient juste morts de froid et de faim.
1,6 km d'épaisseur, ouais. Faut le chercher, quoi.
Ouais.
Donc voilà, après la Première Guerre mondiale, l'équipement scientifique va encore évoluer, donc ça va permettre de mieux connaître l'Antarctique. Et c'est surtout à partir de 1943, donc on commence à construire des stations scientifiques permanentes. Et alors, c'est à partir de ces années-là surtout que les pays se sont dit tiens, c'est quand même sympa comme endroit, on va se le répartir. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les Français se sont dit, tiens, c'est pour nous. Alors, il y a eu un traité qui a été fait en 1961 sur le traité de l'Antarctique, à l'origine 12 pays. Et en fait, vraiment, dès 1961, on a dit, on interdit les activités non pacifiques, c'est-à-dire on interdit les essais atomiques et tout. On va limiter les revendications territoriales parce qu'en fait, ça commence à être un peu la guerre entre tous les pays. Oui, moi, je veux ça. Et on encourage la coopération entre les pays et aussi l'échange d'informations parce que voilà, ça devient un peu une zone internationale en elle-même. À noter qu'en fait, ce traité, il n'a pas de durée de limite d'application. Ouais. C'est vraiment, on dit non, maintenant, ça, c'est pour toujours. Et c'est vraiment un exemple assez exceptionnel de collaboration internationale. Vraiment, il y a très peu d'exemples où les pays autant collaboré entre eux pour préserver. Donc, il y a tout un effort pour préserver la nature, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la pêche, donc ils ont un peu limité la pêche parce qu'il y a des espèces qui commençaient à disparaître, quoi.
Mm-hmm. Donc, je vais pas dire de bêtises, ça me fait penser en fait à la conquête de l'espace aussi, où il me semble que sur la Lune, t'as une loi, un décret, je sais pas quel connerie qui est passé pour dire que t'as pas le droit d'amener d'armes en fait sur la Lune. Voilà, c'est con.
Écoute, j'ignorais.
Non, mais là aussi, t'as une collaboration internationale et t'as pas le droit d'amener d'armes, etc., pour pas militariser l'endroit.
Voilà. Bah là, c'est ça. C'est vraiment, en fait, on dit ça va être seulement scientifique. On interdit la pêche. Mais alors, le problème aujourd'hui, qui est que seulement depuis quelques années, c'est le tourisme. C'est qu'il y a plein de gens qui y vont avec plein de. C'est organisé avec plein de bateaux. Mais ça menace non seulement les écosystèmes, mais aussi, il y a un problème de sécurité, parce que c'est quand même un endroit très, très dangereux au niveau des conditions. Donc, ça assure pas forcément la sécurité des gens. Donc, on est en train d'essayer de limiter un peu le phénomène parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y vont.
Je trouve ça fascinant, les gens. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non,
les gens n'ont pas forcément idée d'à quel point il peut faire froid en fait. On se dit, ok, il fait froid, je vais mettre une polaire, un manteau et on n'en parle plus. Non, il fait froid, froid.
Oui, mais c'est oui, vrai, c'était dans le jingle, hein, c'était moins 8000.
C'était exactement ma question. Je crois que tu n'as pas précisé les températures. Une fourchette.
Je crois que c'est les pires températures du monde.
Genre plein.
Déjà.
Plein de sur, d'accord.
Non, je crois que j'avais à un moment, il y avait un moins 43, un truc comme ça. C'est vraiment au moins comme
un
ça.
Un été canadien.
Oui, à peu près. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à découvrir ? Parce que bon, voilà, en fait, le problème, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épaisse couche de glace là contenue entre mes deux doigts, qui est le plus gros problème. Alors, est-ce que l'Antarctique a aussi des secrets? Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo sur YouTube qui a circulé en disant, en fait, une vidéo bien sûr très complotiste, en disant qu'il y aurait des bases nazies installées en Antarctique.
Mais comme sur la face cachée de la Lune.
J'adore Internet.
Et que ce serait du coup un repère paranormal. Alors, des journalistes ont enquêté très sérieusement pour savoir est-ce qu'il y aurait des vrais...
As-tu des nazis?
Non, mais... Très sérieusement, non.
Alors attends, du coup, parce qu'ils disaient aussi qu'il y avait des phénomènes paranormaux et tout, alors, donc ils ont enquêté pour savoir le vrai de faux. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont détecté des anomalies gravitationnelles et magnétiques.
Ça suffit, un conspiration.
Dans l'Antarctique, mais oui, c'est ça. Mais eux, ils ont émis qu'en fait, qu'il y aurait une activité volcanique sous l'Antarctique qui serait assez exceptionnelle, et donc d'où ces petites... Ou alors, que ce serait les conséquences d'une vieille météorite qui aurait un impact météorite il y a très longtemps. Mais donc, il y a... Ouh là là.
Oui.
Donc le problème, c'est que ces hypothèses, on ne peut pas vraiment les confirmer à moins de creuser. Et
on
or,
des grosses carottes.
Ben c'est ça. Mais le problème, c'est que ça coûte cher.
Ah oui.
Ça coûte très cher en fait.
Ce genre d'expédition.
Donc tant qu'on ne peut pas vérifier ces hypothèses, les complotistes, ils sont très contents parce que voilà.
Non mais Elon Musk, il va y aller.
Ouais, il est déjà assez occupé, tu sais.
Bon, par contre, sur les bases nazies, en fait, sur la vidéo, en fait, c'est juste des captures d'écran de soi-disant entrées de grottes, mais. Ça, c'est n'importe quoi, parce que c'est totalement sorti du contexte, on ne sait pas ce que c'est, ça valide rien du tout. Et alors, ils parlent aussi de soi-disant extraterrestres qui rendraient fous les explorateurs en Antarctique. Mais bon, en fait, c'est juste que sur certaines photos, oui, on peut voir des trucs, mais en fait, c'est le soleil rasant fait des fois des déformations d'optique.
C'est comme des mirages, quoi, comme
et dans
c'est
le ça,
désert.
Exactement, et ça peut provoquer des mirages froids. Et du coup, des mirages froids. Et du coup, moi, juste pour terminer un peu sur tout cet imaginaire que peut provoquer l'Antarctique, j'ai relu il n'y a pas longtemps La Nuit des Temps de Barjavel, où en fait, on trouve, c'est à notre époque à peu près, on trouve en Antarctique, en fait, sous terre, une sorte de cavité avec deux corps humains enterrés, encore vivants.
Avec une petite gourmette avec marqué Adam et Eve.
Non, mais du coup, en fait, je l'ai relu il n'y a pas longtemps et. C'est pour ça que ça m'a bien inspiré pour faire cette chronique aussi.
Et ben en tout cas, elle déchirait cette chronique.
Ouais. Oh,
vachement intéressant. Un peu flippant, mais vachement intéressant. Non, c'était vachement chouette. Ah. Félicitations. C'était vraiment cool. Bah, je lirai peut-être le bouquin. Il est flippant, mais intéressant.
Je peux te le prêter si tu veux. Non, à part cette partie-là, il est quand même assez émouvant. Et t'apprends, tu dis waouh, en 1911, les mecs.
Je veux bien que tu nous écrives le nom du bouquin sur un bout de papier avant de partir.
Ok.
On fera du partage numérique. Tu verras, la technologie fait des merveilles.
J'ai pas l'habitude, tu sais.
Bah du coup,
ce sera-tu le tour de Hicham peut-être
Hicham, hein.
C'est
allez.
Moi.
Tu voulais nous faire des grossièretés? Non, pas forcément.
Non, pas bon. Du tout.
Oh, c'est l'habitude.
Si vous me permettez l'expression.
Une expression pour désigner une femme, voilà, la nana du bain.
Ah non, je déteste cette expression.
Et voilà, donc vous avez compris, ça va être sur les expressions.
J'avais bien compris, moi.
Moi non plus, mais ils ont dit
expression,
trois fois, expression
il y avait un
voilà,
indice.
Vous avez compris. Donc ouais, donc ça va être l'expression du Moyen-Âge. Donc petit rappel, Fanny, tu dis rien. Mm-hmm. Le Moyen-Âge, c'est de quand à quand?
400 à 1400.
Ça dépend.
Hein?
400 à 1400.
C'est ça.
Oh, attends, t'écoutes pas vraiment, non?
Je sais pas, j'ai juste
ça
dit. Enfin, moi j'ai juste noté 5e, 15e siècle. Donc
alors, selon Jacques Le Goff, ça va jusqu'au 17e siècle, mais. Oh non, mais bon. C'est un fou.
Trop dommage que Camille soit pas là pour
un spoil.
Selon Jacques Le Goff.
Battez-vous.
Bon, bref, du coup, je vais vous commencer par vous donner les expressions qu'on connaît tous, qui datent du Moyen-Âge.
Ouais.
Du genre mettre la table.
Non.
Ah oui.
Bah, ouais. C'est globalement mettre des choses sur la table, quoi.
Mais non, parce que justement, normalement, on devrait dire mettre les couverts. Parce qu'on prend pas la table et on la pose.
Ouais.
Alors pour info, mon père il dit va mettre le couvert, hein, mais.
Oui, mais ton père est bizarre.
Non, je rigole. Il s'appelle Michel en plus.
On mettra les sources. Hein.
Mais ouais, parce qu'en fait au Moyen Âge, les pièces n'étaient pas définies, donc il y avait pas un salon qui faisait
et
salon.
Et il mettait littéralement la table.
Donc il y avait salon, ça peut être à la fois le salon, la chambre, peut-être pas les toilettes. Je suis pas sûr de ça.
Dehors les toilettes, non.
On chie dans les coins.
Ouais, c'est pour ça peut-être que l'expression sort. Okay,
on chie pas là où on mange.
Oui.
Et comment tu dis, Michel, va prendre ta douche. Du coup, il le fait vraiment.
Non, je veux pas te niquer l'ambiance, mais la douche, c'était vraiment les prémices. Hein.
Déjà, les bains, c'était bien.
Ouais. Allez.
Donc, ouais, donc au Moyen-Âge, les tables n'existaient pas. Donc, on apportait une grande planche avec des tréteaux, et puis voilà, on mettait la table. Deuxième expression, prendre la porte.
Pareil.
C'est ce...
Il fallait je prends la porte.
Non, pas du tout, pas du tout.
Ça vient de Gond.
Pas du tout. Ça vient de la ville fortifiée de Pérouge, c'est vers Lyon. En gros, ils se sont fait attaquer par des ennemis.
Ils sont barrés avec la porte, les bâtards.
Il y avait une seule porte où ils pouvaient rentrer.
Pour toute la ville
Ouais.
Une porte.
Mais je pense pas que c'était une ville, c'était peut-être un petit village, je sais pas.
Comme la porte de comme la prise de la Bastille, en fait. C'est une prise militaire, quoi.
C'est un peu ça. Enfin, oui, guerre au Moyen-Âge, quoi. Donc ouais, ils se font attaquer par les ennemis. Je sais pas comment ils s'appellent, on les appelle les Pérougiens ou
les Péruviens,
les Pergois. Enfin bref. Et en fait, les Pergois, ils ont, je vais les nommer les Pergois, hein, comme ça on est tous clairs. Ouais. Les Pergois, ils ont entassé plein de cailloux derrière la porte. Comme ça, quand les ennemis sont arrivés, ils ont cassé la porte. Ils se sont retrouvés avec une pluie de pierres qui sont tombées dessus. Du coup, bah ils sont retranchés avec des bouts de porte. Ils sont cassés. Du coup,
on dirait maman, j'ai
ils ont pris la porte. Voilà. D'où sortir et puis prendre la porte, quoi.
D'accord.
Ok, Ben.
Sinon, il y a aussi à la queue le. Est-ce que ça, vous savez d'où ça vient?
Des mariages.
Je veux pas entendre parler.
Non.
Non. Est-ce que c'est religieux? Non.
Non, pas du tout.
Justement, ou l'inverse?
Non.
L'inverse.
C'est satanique. Non, non.
À la queue le.
Le, en fait, ça voulait dire loup à l'époque.
Ah, c'est les loups.
Et les loups se trimballaient en groupe. Et en souvent
le wolf,
en ligne.
En ligne, donc à la queue leu-leu.
À la manière des loups.
C'est...
Et du coup, pourquoi on disait loulou?
Je sais pas.
Parce que c'est du français médiéval.
Voilà.
C'est une bonne raison.
Comme elle a dit elle.
Je suis tout illuminée.
Bon. Et sinon, il y a aussi des expressions un peu moins connues. Et puis là, je compte sur vous pour un peu avoir un peu d'imagination. Et puis vous aussi, les auditeurs.
On va essayer.
Allez, t'inquiète, frère, on voit.
Vous aussi, les auditeurs. C'est alors... la clap de Roté.
Je sais.
Faire le Jacques, à votre avis, ça veut dire quoi?
Faire le malin, con. Faire le beau.
Pas non, non. On se rapproche, mais non. Alors, enfin, il y a faire dedans, mais non. Moi,
Jacques, Yakesh, Jésus, faire le candide.
Camoulox. Oh,
trop d'imagination.
Tu vas trop loin.
Si c'est ça, je saute sur la table.
Pas du tout, non.
Alors évite, il y a des verres.
Ça veut dire se conduire comme un idiot.
Bah, mais il a dit faire le con.
Oh, oui.
Non, t'as pas dit faire le con.
Si.
Eh ben, je t'ai pas entendu.
Il l'a dit.
C'est enregistré, on pourra vérifier.
T'as dit faire le candide.
Non, ah ouais, mais si tu utilises des mots légal, hein. Bizarres pour moi...
On verra l'arbitrage vidéo après.
Ouais, parce qu'en fait, Jacques, à l'époque, c'était le nom qu'on donne à l'idiot du village. Et Jacques Bonhomme, c'était le paysan lourd.
D'accord.
Et du coup, bah, en fait, c'était la bêtise du paysan lourd.
Comme il y a une dizaine d'années, Régis est un con, là, c'était Jacques est un con.
J'ai pas compris.
Ah, t'es souhait.
C'est pas grave.
Oh là là.
C'est l'ancêtre de Jean-Michel Relou.
On t'enverra les vidéos.
Celui-là.
Vas-y.
Alors, une autre expression, c'est avoir un nom à coucher dehors.
Bah, quand tu t'appelais Jacques, tu dormais.
Tu pouvais pas rentrer dans
quand
l'auberge.
T'as pas un nom noble, ouais. Quand tu n'as pas un nom noble, peut-être.
Eh bah, voilà.
Et on avait pas dit que tu disais rien, toi.
Bien joué.
Oh,
non, c'était juste pour le Moyen-Âge. Sinon, il faut bien participer. Non, c'est exactement ça. En fait, on classait les gens dans les auberges en fonction de leur nom. Donc, si t'avais un nom noble, t'avais le droit d'entrer. Mais si tu t'appelais Jacques, Michel.
Mais ils avaient des cartes d'identité ou pas?
C'est pas con,
non,
ça. Tiens,
tu pouvais m'étonner sur ton nom.
Mais attends, c'est ça,
si le mec il était crade et qu'il avait la crotte au cul, bon, bah,
mais la vie ne fait pas le moine.
Ah, ça c'est une autre expression qui vient du Moyen-Âge aussi, mais je vais pas vous en parler parce que
c'est chiant.
Sinon, il y a aussi sentir le fagot.
C'est un rapport avec le feu.
Oui.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Je dirais même que c'est un rapport avec le petit bois.
C'est aussi en rapport avec un épisode de Pardon Maman. Enfin, à l'époque ça n'existait pas, mais bon.
Quand on parlait d'être mal fagoté, non?
Non, Camille, on en avait parlé dans un...
Ah, mais on n'écoute pas Camille quand elle parle.
Ouais, c'est juste elle qui fait tout le succès.
Peut-être parce qu'il se frottait avec de la paille, je sais pas.
Non, mais en vrai, tout le monde les fout, mais moi, j'ai pas retenu, par contre. Vas-y.
Non, en fait, les hérétiques... Hérétiques?
Les hérétiques.
Les hérétiques ou ceux qu'on soupçonnait de sorcellerie, bah, ils étaient brûlés vifs.
Oh.
Et du coup, en fait, ça veut dire « ça pue pour toi, gros ».
Oh.
Ah.
C'est comme ça sent le sapin.
Ouais, c'est ça sent le sapin.
Ça sent le sapin, ouais.
Et puis le fagot, bah, c'est la bûche, si je me rappelle bien, la bûche qu'on utilisait pour brûler les gens dessus.
Comme l'a fait Fagot ?
Non.
Je comprends toujours pas vos expressions, les gars.
Si. Là, par contre, on n'a pas compris.
Ah, ok, vous me rassurez.
Avez-vous déjà vu Alain Chabat, non ?
Oui, bah oui. Ah.
Et puis, je vais finir avec la dernière expression. C'est mordre les poils comme Clovis.
Quoi ?
Ah, celle-là.
Ça a rapport avec son baptême ?
Non.
Mordre les poils comme Clovis.
Là, tu m'as perdu, mais.
Ah, c'est poil-poil ou poil.
Poil-poil. Poil-poil, poil-cheveux.
Ça a un rapport avec ses fils.
Si je te dis bataille de Soissons.
Oui, bah il y a un.
Ah bah ça m'aide. Oui.
Comment ça, bataille de saucisson.
Ils ont pas coupé pas les halal, poches à un ça. Mec qui avait son pouvoir de danse en son là, je sais pas quoi.
Non, en fait, non, c'était une bataille, la bataille de Soissons, c'était contre les Romains. Clovis gagne, il retrouve ses soldats pour organiser le partage des butins. Ouais, voilà, donc le vase de Soissons. Donc il y a un évêque qui demande à Clovis, ouais gros, tu peux me passer un vase, s'il te plaît, c'est un vase religieux.
Pète sa mère ton vase.
Ouais, il est trop d'art. Et donc il va voir son armée, il demande, en plus de ce qu'il lui y prend, s'il pouvait prendre en plus le vase de Soissons. Mm-hmm. Puis là, t'as un militaire qui dit « Wesh, non, j'en veux pas te... » Enfin, non.
C'est mort, frère.
C'est mort, on partage, on est tous égaux, me fais pas chier. Du coup, bah, il prend le vase et il le casse. Mmh. Tu peux m'interrompre si je dis une connerie.
Ouais, vas-y, vas-y.
C'est la version moderne.
C'est un peu ça.
Je suis pas médiéviste, malheureusement, donc j'ai du mal.
Bon.
Donc, il prend le vase.
Il le casse. Clovis est furax. Quelques temps plus tard, parce qu'il se retrouve devant des militaires pour une inspection, il retrouve ce soldat, il lui dit vous avez une tache sur votre botte.
Et là, bim, pistache.
Et là, du coup, le gars, il se baisse, commence à nettoyer ses bottes. Clovis, il prend une manchette, on revient à la manchette, il lui coupe les cheveux pour l'humilier.
Le scalp, clac.
Et voilà, d'où vient mordre les poils comme Clovis.
J'ai toujours pas compris le mordre en fait.
Bah en fait, c'est mordre, genre coupé quoi.
Ouais.
Ouais, ça a quand même un peu tiré par les cheveux.
Oh, oh. En fait, je vous ai menti, je l'ai inventé, et puis voilà, ça n'existe pas du tout.
Pourtant, c'était la meilleure.
Ouais, voilà, bah oui, j'ai essayé.
Je suis tellement déçu, putain.
Je me sens trahi.
Mordre les poils, putain, j'étais dedans, quoi. Ah là là. On va considérer que la dernière n'est pas bonne, mais elle nous a fait rêver, en tout cas. Okay. Maintenant, on va passer au sujet de Juan, si je dis pas de bêtises.
C'est un drôle de métier, ça.
Pas un métier, ce n'est pas encore un métier.
C'est mon métier, bébé.
En plus, moi j'ai fait ce métier pour faire plaisir à papa.
Bienvenue sur la radio-télévision française.
Je vais arrêter tout de suite avec cette voix, ça me saoulait. Donc moi je vais vous parler un petit peu de vieux métiers, des métiers qui ont disparu.
La musique elle reste en fait.
Ouais mais je vais la baisser, regarde.
C'est bien fait.
Technologie. Je vais vous parler de petits métiers qui ont disparu. Ils sont pas vraiment. On se doute en fait qu'ils ont disparu. Je vais par exemple vous parler du placeur de qui. Hein.
Au bowling.
Qu'est-ce que c'est qu'un placeur? Bah oui,
ouais,
au bowling.
Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un qui est le placeur.
C'est quand même complexe un bowling dans son fonctionnement. Bah c'était un peu le job étudiant de l'époque en fait, numéro 1. Avant on faisait pas 8 heures chez McDo par semaine.
Ça devait être dangereux quand même, imagine tu te prends une boule.
En fait, les placeurs de qui étaient sur une petite estrade derrière. Donc ils restaient là, il y en avait même plusieurs généralement par jeu pour que ça aille plus vite. Et donc on jouait aux quilles et ils allaient reposer les quilles derrière. Vous comprendrez pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui. Si je vous parle d'un caillouteur.
Ah bah pareil mais avec des cailloux.
Eh bah non. Qu'est-ce que ça peut être un caillouteur?
Celui qui permet de retrouver le petit pousset.
En Arabie, je crois qu'en Arabie, il y en a des caillouteurs.
Oui, mais c'est pas la même chose, on arrête tout de suite. Okay. Non, le caillouteur, c'était la personne qui taillait les pierres à fusil, les pierres de silex. Donc ça a disparu à la fin de la Première Guerre mondiale, en fait.
Avec l'invention des allumettes et du briquet.
Non, avec l'invention de la percussion sans pierre à silex. Mais voilà, ça a fini à la fin de la Première Guerre mondiale. Celui-là, vous le connaissez sûrement, le réveilleur.
Ah bah pour réveiller les gens.
Oui.
Celui qui faisait sonner les cloches.
Alors il sonnait pas les cloches, le réveilleur c'était spécifique à Paris en fait, le nom réveilleur ça avait des noms différents selon les endroits, mais à Paris c'était la personne qui réveillait les gens à coups de cailloux dans les fenêtres, en criant, en mettant des coups de bâton, des
circulets. C'était le relou, le relou.
Le bon gros relou.
Demain 7h30, hein, j'ai un entretien, vas-y.
Ça faisait plus dur.
Les réveilleurs avaient l'habitude de se prendre des seaux de flotte sur la gueule.
Il est employé par qui en fait?
Alors ça j'ai pas la réponse, mais on a dit par la commune finalement.
Ouais parce que...
Oui, parce qu'il avait pas une dîme, étonnamment, quand il te réveillait à 7h en te jetant des cailloux sur la fenêtre, tu lui donnais pas un sou. Donc à mon avis, c'était plutôt un emploi qui était payé par... qui était en charge des caisses, à ce moment-là. Mmh. Vous l'aurez peut-être reconnu dans le générique, le poinçonneur.
Oui, des lilas. Les petits trous.
Oui.
Dans le métro.
Qui poinçonnait les tickets.
Absolument, la personne qui poinçonnait les tickets, la profession a disparu quand, à votre avis, à peu près?
Quand il y a eu des poinçonneuses.
l'invention du pass Navigo.
Merci, yes.
C'est bien, t'es une personne intelligente.
Ah bah oui.
Donne-moi une date, espèce de con.
1883.
Oh non.
Non, non,
non.
Avant, c'est la guerre.
Fin 20e.
Dans les années 70.
Fin 20e.
On parle de la disparition du métier, non pas de quand on a eu la première poinçonneuse automatique.
Ah bah moi je parlais de la poinçonneuse automatique.
Si ça se trouve, il est encore coincé dans le truc métro, là, pass Navigo.
Ça se trouve, il est tout petit et il est dans la machine. Oui.
Nos parents potentiellement ont pu connaître des poinçonneurs.
Quoi. C'est fort probable. En tout cas, s'ils habitaient dans une grande ville, parce que je pense que les poinçonneurs, on s'en foutait un peu dans les petites régions de si ton billet était poinçonné ou non.
Et ça existe encore dans le train. Des fois, il y a les mecs à la main qui passent et qui le font avec leur petite machine.
C'est vrai. C'est vrai.
Mais bah ça, c'est des contrôleurs.
Se trimballer la machine, c'est compliqué, mais ça va plutôt être des contrôleurs, en effet. Bon, bah là, le problème, c'est qu'il y en a où le nom parle vraiment d'eux-mêmes, un allumeur de réverbère.
Dites rien, dites rien. Un mec qui allumait les réverbères.
Dans le Petit Prince, il y en a un.
Absolument. Et du coup, quand est-ce que ça s'est arrêté?
Avec l'électricité.
Bah, oui.
C'est quoi un réverbère?
Un réverbère, c'est un lampadaire que tu as dans la rue de toutes les villes.
Dans Harry Potter, ce qui fait Dumbledore, l'inverse.
Je regarde pas Harry Potter.
Alors j'en ai un qui est un peu plus challenge, le rhabilleur de meule.
Les mecs qui remettaient les soutifs des meufs?
Non.
Pardon.
Ça a un rapport avec l'agriculture?
Ça a un rapport avec l'agriculture.
Ah, parce que maintenant, automatiquement, on emballe les meules pour qu'elles soient facilement transportables. Et là, c'est un mec qui les emballait.
Qu'est-ce qu'une meule?
Alors là, tu parles de meule de foin. Moi, je te parle de meule dans un moulin. En fait, le rhabilleur de meule, c'était un métier qui était très prisé. C'était un artisanat qui était assez rare. Et en fait, c'était la personne qui gardait en état le mobilier dans les moulins, notamment les meules. Ça a évité aussi les incendies. Parce qu'en traitant les meules correctement, bah, ça a évité qu'avec la friction, ça foute le feu au moulin, ce qui arrivait quand même assez souvent.
Pardon, mais je suis perturbée par ta façon de dire meule.
Meule.
M-E-U-L-E. Okay.
La meule.
Oui, merci.
Je viens du sud. Je suis
non, mais je voulais juste vérifier.
Comme
bon, j'en ai un autre qui est un peu obvious, mais c'est le laitier, finalement.
Oh.
Parce qu'on n'a plus de laitier aujourd'hui.
Celui qui amène le lait le matin.
Celui qui a amené le lait.
Et
exactement.
Qui existe encore un petit peu aux US, non? D'après les séries qu'on voit, en tout cas.
Par tradition, en fait, parce qu'à l'époque, le truc, c'est que le lait devait être consommé quelques heures après la traite.
Ouais.
Ah, depuis la pasteurisation, on n'a plus vraiment besoin de ça. Mm-hmm. Donc c'est plus traditionnel qu'autre chose. C'est parce qu'on a la flemme, hein. C'est pour se faire livrer.
Dans Desperate Housewives, je crois, on a ça.
Ouais.
C'est pas possible, mais c'est juste un service de livraison comme notre, finalement. Il n'a plus vraiment de raison d'être. Le cantonnier.
Celui qui chante des chansons.
Celui qui crie des messages dans la rue.
Non plus.
C'est rapport au canton, donc au petit...
Rapport au canton.
Le maire du canton.
Non.
Bah non.
Alors ça date du début du 18e siècle. En fait, le cantonnier, c'était la personne qui s'occupait de l'état des routes. Avant le 18e siècle, c'était les paysans qui eux-mêmes...
Mais on voit l'état aujourd'hui,
entretenaient...
hein, ils nous manquent beaucoup.
Maintenant, c'est la municipalité. Mais à l'époque, c'était...
Département, pour être exact.
On est entre le moment où les paysans s'occupaient eux-mêmes d'entretenir les routes et le moment où c'était les municipalités qui s'en occupaient. On avait un cantonnier qui était chargé d'enlever les caillasses sur la route, et etc. Le crieur, là-bas.
Oui, ah, oui. Je suis en train de lire « Pars vite et reviens tard » de Fred Vargas et il y a un crieur, c'est trop marrant. Un mec qui remet...
Fred Vargas, c'est trop marrant.
Non, c'est un type qui... donne les nouvelles du jour, en fait.
Absolument. Et si je me permets, il y a des villes du sud de la France, si je dis pas de bêtises, qui ont réhabilité des crieurs, qui sont payés par la municipalité.
Absolument.
C'est très très récent. C'est
bien relou.
Un an, je crois.
Ils ont rien avec les réveilleurs de tout à l'heure, non?
Et pourquoi on avait besoin de crieurs, d'après vous?
Pour diffuser des informations.
Oui, mais est-ce qu'on pouvait pas les imprimer?
Ils savaient pas lire.
Exactement, les gens ne savaient pas lire.
Pareil, en Arabie Saoudite, il y avait des crieurs pour faire la prière.
Ça, c'est le muezzin, ça.
Ah, merde.
C'est pareil.
Arrête de tout rapporter à l'Arabie Saoudite maintenant. Alors, il y avait un métier qui avait un nom très rigolo que j'aimais beaucoup, c'était le fort des Halles.
Fort des Halles.
F-O-R-T.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un rapport avec Châtelet?
Il y a un rapport avec Châtelet.
Avec la cour des Halles, enfin.
Châtelet,
cour des miracles.
Muraille. Bon, Camille n'est pas là donc je tente. Muraille.
Non.
Cour des miracles.
C'était un métier, hein, le fort des Halles.
Quelqu'un qui était fort.
Où ça?
Châtelet. Il portait des choses?
Exactement.
Des corps,
les
cimetières des sans innocents.
Il portait les courses?
Non, il portait, oui, tout simplement, les victuailles en fait.
C'était
souvent des repris de justice ou des gens qui sortaient de prison ou autre et qui venaient travailler la nuit ou au très petit matin, exactement, et qui venaient décharger les camions pour le marché.
De Deliveroo.
Et mais il y en a aujourd'hui, mais ils ont des camions en fait.
Exactement, et ils sont moins repris de justice. Mais on appelait ça les forts des Halles et je trouvais ça formidable.
C'est beau.
Un autre truc, on ne croirait pas que c'est un métier, les profanateurs de sépultures.
Hein?
Merde.
The body snatcher.
En quoi est-ce que ça pourrait être un métier, profanateur de sépultures?
Si on doit avoir pour les enquêtes de justice.
Alors pas loin, mais non.
Pour récupérer la thune.
Et non, pour la science. Ils étaient embauchés par les universités au 19e siècle.
C'était officieux.
C'était officieux. Oh, c'est pour ça que profanateur, finalement.
Ouais.
C'était tout à fait officieux, mais c'est pour, qu'ils puissent, pour que les étudiants en médecine puissent étudier des cadavres, ben, on profanait des sépultures et des mecs étaient payés, un petit peu aux blagues, je pense, pour ça. Un autre qui parle de lui-même, c'est l'aiguilleur de train.
Ça
n'existe
plus, ça ?
Ça n'existe plus.
Plus
dans le même sens.
Il y a quelqu'un qui aiguille.
Mais il n'est plus dans sa petite cabane à attendre sous la neige qu'il y a un putain de train qui passe pour aller tourner une manette.
Ah ok.
Voilà.
Et faire gauche droite.
Exactement. Un autre, c'est l'acheteur de bois chantant.
Alors, c'est pour les violons.
C'est pour les luthiers.
Exactement.
Oh, c'est trop mignon.
C'est une personne qui vendait le bois donc utilisé par les luthiers, l'épicéa, l'érable, etc., qui pouvait servir à faire des instruments. Et le petit dernier, je l'aime bien. La marchande de plaisir.
La pute.
Alors, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai lu le nom aussi, honnêtement.
Vendeuse de bonbons.
Les bonbons, ouais.
Ah, en effet. En fait, elles étaient encore nombreuses au 19e siècle. Les marchandes de plaisir, c'était des vendeuses ambulantes de pâtisseries qu'on nomme les oublis.
Les oublis.
Ouais. Après, ça s'est rapporté à d'autres bonbons et pâtisseries. Mais en effet, la marchande de plaisir, c'était une dame qui vendait des petits plaisirs.
D'accord, mais il y a encore les vendeurs de chouchous sur les plages. C'est un peu,
chouchou,
c'est
vrai.
Oui, je t'invite à aller les voir et leur dire bah alors, la marchande de plaisir, comment ça se passe?
Bah, et ce dernier était super poétique.
Ce sera tout pour moi, finalement.
Et bah, j'ai beaucoup aimé cette marchande de plaisir et ce petit thème musical qui était bien sympathique.
T'as l'impression d'être sur la ligne qui va du Louvre aux Champs-Élysées.
La une.
La une.
Je la prends pas.
Non, mais c'était bien chouettos. Du coup, on va passer à...
Il est venu le temps de Monica.
Allez.
C'est vous qui lui avez mis ces conneries dans...
Pour l'instant, je suis en phase d'analyse.
Je t'en supplie, réfléchis.
Il y a 5 ans que je réfléchis.
Mettez vos efforts pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse.
Alors aujourd'hui, on va s'éloigner un peu de la vulgarisation pour entrer dans le domaine du discernement et de l'analyse critique.
Mmh. On adore le discernement.
En fait, avec toutes les fake news et encore plus vicieux les articles ou émissions qui sont conçus dans le seul but de faire germer des idées ou des sentiments précis dans nos pauvres petits esprits influençables, je me suis dit que ce serait utile de se donner un ou deux conseils pour être un peu plus objectif et un peu moins des moutons.
Ben,
c'est gratos.
Surtout que là, l'idée est là, donc...
Honnêtement, c'est facile de tout prendre pour acquis, ça m'arrive aussi, sincèrement. Mais voilà... Si on veut comprendre l'étonnant et aboutissant du monde dans lequel on vit, faut défendre son libre arbitre et rester critique.
C'était ta plus longue phrase de tous les temps.
Point virgule.
Tu as le record.
Donc j'ai commencé par les informations détournées, plus vicieuses car elles se basent sur des faits réels. Ça, c'est super important. J'ai désigné dans cette catégorie les articles de presse ou émissions qui sont conçus donc, pour vous convaincre de quelque chose qui, finalement, est faux, malgré le fait que ça se base sur des faits réels. Mmh. Parce qu'on peut additionner autant de demi-vérités qu'on veut, le résultat sera toujours un mensonge. Juan, arrête de lire mes putains de fiches.
J'aime bien lire tes fiches.
C'est-à-dire quoi, ils affirment au lieu de mettre du conditionnel, quoi.
Non, même pas. Je vais donner plein d'exemples.
D'accord.
Déjà, il y a l'exemple du...
T'inquiète
même pas. Il y a l'exemple du sophisme.
Oui.
Dans les mentales, il y a des trous, puis il y a des mentales, puis il y a des trous...
Plus il y a trop,
moins il y a des mentales, donc plus il y a des mentales, moins il y a des mentales. Ouh, bref.
D'accord. Eh bien non.
Eh ben non.
J'ai rien compris.
On fera un schéma.
Tu l'as mental.
Tu connais les mentales ?
Non, non, on t'expliquera le sophisme une autre fois parce que ça va être très long.
Non, c'était juste un petit exemple parce que tout le monde connaît les sophismes.
Enfin, le sophisme.
En Arabie Saoudite, ça paraît. Pardon.
Tu veux dire les sophismes ?
Tu l'as pas respecté.
On te fera une chronique.
Bon, je vais commencer par une illustration un peu plus évidente, n'est-ce pas ? C'est une vidéo qui m'a donné l'idée de ce sujet et en fait, c'est des conspirationnistes qui pensent que la Terre n'est pas sphérique.
T'as des preuves ?
Ils sont géniaux, ils sont juste
les
géniaux.
Les platistes.
C'est bah pas
ça, alors comme ça. Les platistes, ouais.
Ou les plateaux, non ?
Les plateaux. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu une vidéo qui est absolument géniale et on vous donnera le lien, bien évidemment. Ok, tout le monde fait des signes.
Pour expliquer aux éditeurs, en fait, ouais, il fait très très chaud parce que dans notre nouveau studio, on est sous les toits. Donc là, tout le monde fait des gestes comme s'il voulait s'envoler. En fait,
vous voulez des petits éventails
pour s'aérer.
Ça va faire du bruit.
Oui, voilà. On va plus.
Si ouais. J'entends un flap flap,
enchaîner.
Ouais, manchette.
Excellente idée d'enchaîner. Super. Et donc, dans cette vidéo, ce qui m'a impressionné.
Mirifé.
Enfin, ce qui est bien fait, c'est que en fait, l'auteur fait totalement semblant de rester objectif. Il dit non, mais moi, je fais que soulever des questions. Voilà. Il y a ces faits-là qui sont de sources sûres, et qui montre quand même que ça colle pas, quoi.
Coïncidence,
c'est pas
je
possible.
Ne pense pas.
La Terre, elle est pas ronde. Si elle était ronde, ça marcherait pas. Par exemple, il y a un cliché extrêmement connu de la skyline de Chicago qui a été prise de l'autre côté du lac Michigan, et donc c'est à plus de 14 km de distance. Et normalement, avec la
courbure
de la Terre, merci, eh ben, on devrait pas pouvoir le voir. Ouh là là, comment est-ce possible?
On les voit.
Et on les voit. Mais comment ça se fait? Eh ben, en réalité, ce genre d'argumentaire, c'est tout simplement basé sur des faits qui sont certes réels, mais qui sont tronqués. Il y a une explication scientifique, un bout d'information qu'on nous donne pas volontairement.
Dans ce cas-là, c'est un
comme
mirage,
les bases nazies
en
Antarctique, quoi. Enfin.
Oui, c'est ça. C'est regardez, il y a un bout de grotte. Et bah, c'est des nazis, en fait. Non, mais ça m'a fait penser à un cliché d'un procès où on dresse un tableau horrible d'un mec, genre oh là là, vous avez tabassé tel type, il est dans le coma, vous lui avez cassé 15 côtes, je sais pas quoi. Et donc là, tu te dis putain, ce mec, c'est vraiment un connard. Et si jamais
en fait,
je le croise, comment?
Et en fait, non, légitime défense.
Et en fait, je sais pas, la victime, celui qui est dans l'hosto, il voulait violer une fille, et l'autre mec, non mais je sais pas, je grossis le trait, mais c'est juste pour dire. Ça change totalement si jamais on a la moitié d'information ou la totalité. Alors, plus subtil. J'ai une illustration qui date de 2012 et qui a pour source l'Institut pour la Justice. C'est pas des gens que je porte forcément dans mon cœur.
Pourtant, c'est du lourd.
Comment ?
Ça a l'air d'être du lourd, l'Institut pour la Justice.
Ils se présentent comme... Enfin, leur présentation est hyper... Enfin, ça... Ils disent oui, on veut une justice plus efficace, mieux protéger les victimes et tout. En réalité, ils veulent juste une justice beaucoup plus sévère envers les accusés et donner une place beaucoup plus importante à la victime. Alors, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui d'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais juste, ils utilisent le pathos et ils appellent vraiment au sentiment personnel des membres pour persuader que tout le monde est en grand danger, que la justice est atrocement laxiste et que c'est horrible.
Bah, c'est de la propagande. C'est le propre de la propagande, en fait, c'est de se baser sur ce qui est vraiment purement sentimental, sur ce qui est viscéral, et en se basant sur des faits vraiment viscéraux, on va avoir une réaction qui va être naturelle, mais qui sera pas sensée, en fait.
Précisément. Et donc, je vais juste vous lire une newsletter qui est intitulée très sobrement « L'inquiétante montée des cambriolages ».
Ouais,
c'est ça. Non mais tout est comme ça en fait. Je vais utiliser exprès un ton un petit peu
dramatique.
Dramatique, voilà.
Pour appuyer ton propos.
Pour appuyer mon propos. Les problèmes de justice et d'insécurité sont en train de prendre des proportions angoissantes. Notez le angoissante qui est quand même un vocabulaire.
Je suis angoissé de ouf là.
Le gouvernement annonce aujourd'hui que le nombre de cambriolages a augmenté de 17% en France en 2011. 17%, cela peut sembler raisonnable, sauf quand vous savez qu'il se commet 200 000 cambriolages de résidences principales chaque année en France.
Oh, ça va bientôt m'arriver du coup.
C'est pas, tu vas voir. Une augmentation de 17% représente donc 30 000 cambriolages de plus en 2011. C'est énorme. Et je... Il allume les fiches. Je crie parce qu'il a vraiment écrit en gros avec des petits tirets entre chaque lettre.
C'est ça.
Cela signifie pour vous le risque d'être victime à votre tour. Et c'est là qu'il utilise le pathos.
Oui.
Car un cambriolage est commis toutes les 2 minutes en France, nuit et jour, toute l'année. Et là, ça devient intéressant parce qu'on fait un amalgame avec un fait totalement différent. Mais surtout, le phénomène le plus inquiétant est l'augmentation des homejacking, des cambriolages au cours desquels les occupants, entre parenthèses comme si on avait besoin de le préciser, vous et votre famille, sont ligotés, frappés, parfois même torturés et tués par les cambrioleurs, qui s'avèrent la plupart du temps être des multirécidivistes, parce que sinon ce serait pas drôle. Le 10 janvier 2012, et là ils citent leur seule source qui est quand même le Parisien, attention, ça déconne pas.
C'est bien le Parisien.
Il cite le Parisien qui décrit une scène horrible d'un couple de petits vieux de 80 ans qui s'est fait torturer dans son appart et la femme est décédée, le vieux, enfin bref, un truc horrible. Ah. Et il continue car c'est bien cela, le risque de se faire cambrioler, non seulement ça vous coûte de l'argent et en plus vous risquez un risque, vous et vos proches. Et après il y a tout un blabla sur le fait que les auteurs ne sont pas punis. Et donc en gros ils font l'amalgame entre des auteurs qui ont beaucoup d'aménagements de peine, mais parce que ils n'ont pas commis des faits très graves. Par exemple, des tout petits cambriolages, c'est extrêmement désagréable pour la victime, mais c'est pas des assassins et des tortionnaires.
Mmh. Si on mettait un arabe là-dedans, ce serait vraiment... ça serait un meeting de Marine Le Pen, en fait.
Oui, non, mais l'Institut pour la Justice, ils sont un petit peu pour la réinstauration de la peine de mort. Donc,
mais cool.
C'est pas totalement affiché.
Des gens sympas.
Des bons compagnons.
J'ai mis quelle ambiance.
Non, oui, bah c'est moins détendu et moins fleuri que t'as. Que
ah bah les chiens, oui, c'était plus mignon. Quand même.
Ensuite, vous voulez.
Je parlais d'Hicham. Hein.
Je voulais vous parler des fake news ou fausses informations. Ça, c'est beaucoup plus connu et franchement, c'est quand même beaucoup moins compliqué. Si jamais il y a un de vos amis qui partage sur Facebook le fait que Dewey de Malcolm est mort dans un accident de voiture, et ben vous faites CTRL-T, vous tapez dans Google Actualité Dewey Malcolm mort, et là vous remarquez que...
C'est la troisième fois depuis un an.
Non mais juste vous remarquez qu'il n'y a aucun journal minimum fiable, je sais pas, au pif Le Monde, qui relaie l'information.
Pourquoi Le Monde parlerait de la mort de
Dewey?
Oui,
c'est ça.
Bah ils ont fait un article pour la mort du chanteur de Linkin Park, donc pourquoi pas.
Mais Linkin Park, c'est pas Dewey.
Bah Malcolm c'est... Bon bref. C'est quand même... Enfin, je sais pas.
Laissons nos avis
si
personnels de côté.
Si vous refaites exactement la même recherche 2 heures après, bah, vous allez avoir plein d'articles avec dans le titre « Alerte fake news, blablabla », comme par hasard.
Et les journalistes font un peu bien leur travail alors.
Eh oui, mais c'était pas du tout... Bah, tu m'as totalement pigé.
Pardon. Oui, en fait,
ça dépend des journalistes.
Le but, c'est pas d'accabler telle ou telle partie, mais c'est de vérifier les sources et de voir d'où ça vient, et de vérifier la date, la source, si
j'allais y venir. Merci, Ilias. Tu peux finir la chronique à ma place.
Non, mais surtout qu'on a, pas mal des news dont tu parles qui viennent de journalistes qu'on peut mettre entre guillemets aussi. Enfin, c'est des sources qui sont pas forcément.
Vous ne savez pas tout.com.
Formées.
Oui, non, mais le but n'était absolument pas d'accabler qui que ce soit, mais juste. De montrer que des faits peuvent être extrêmement facilement détournés. Donc mes petits conseils du haut de... Mais on va en mettre 66, on s'en fout. Donc il est important de regarder les sources de préférence officielles, donc je sais pas, l'AFP, un autre journal, un institut de sondage, ou le nom vérifiable d'une personne qui est citée, ça c'est super important, c'est pas Michel qui a dit, ou un des mecs au marché qui a interrogé.
C'est quoi votre problème avec les Michel?
Ensuite, des chiffres précis, c'est-à-dire avec un point de référence clair. Si je vous dis 70% des femmes pensent que... Oui, d'accord, mais quelle femme, enfin de quel âge, de quelle nationalité, sur un échantillon de combien de personnes,
voilà,
ou alors au moins le lien vers l'institut de sondage. Oui, exactement. De toute façon, je crois qu'on pourrait faire une chronique entière sur comment manipuler les statistiques, mais il y a déjà pas mal de vidéos à ce sujet. Et puis tout simplement, c'est l'histoire de faire une autre recherche pour double-check les faits.
Croiser les sources.
Et aussi, j'ai un... Non.
Pardon. Alors, tu as donc...
Un conseil, c'est de lire les phrases indépendamment les unes des autres pour voir si elles se tiennent et juste qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette phrase. C'est juste un exemple dans un article du Figaro intitulé « Fanatisme religieux, le coup de gueule d'un principal de collège » qui parle... juste un énorme ramassis de tous les clichés qu'on peut avoir sur les musulmans plus ou moins ou pas du tout radicaux.
C'est vrai que ça a l'air très très bon comme article.
Mais franchement, c'est un régal mais déprimant, quoi.
Tu as le nom du journaliste, tant qu'à faire
Non, je l'ai pas.
Il faut balancer.
De toute façon, il y aura le lien. Non, mais le lien sera donné.
Pas de dénonciation.
Le lien sera donné.
J'accuse.
Enfin, chapeau, ils assument, quoi.
Le poids des mots,
mais
le
vraiment,
choc des photos.
T'as de tout, quoi. T'as des fichiers S, t'as juste des gamines qui veulent rentrer avec leur voile. Enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et t'as un extrait, donc l'histoire de lire les phrases indépendamment les unes des autres, c'est parce qu'il y a un extrait... Juan... Arrête de lire mes fiches. Qui dit que au collège, la fracture entre garçons et filles est grandissante. Ils ne se mélangent très peu en cours de sport. Les garçons ne s'assoient pas à côté des filles, ils sont un peu moqueurs. Mais je suis désolée, je sais pas comment vous étiez vous au collège. Alors j'étais peut-être pas la plus populaire, mais je tapais pas la bise à tous les garçons et je faisais certainement pas du sport avec les autres garçons. Enfin bon, bref.
C'est à cause de toi, sorti.
Fallait être fort en sport, hein, c'est pour ça.
C'est des chances. Et sinon, dernière information, vous avez des petits jeux en ligne très intéressants. D'ailleurs, merci à Ilias et Juan de m'avoir donné le lien. Donc le jeu s'appelle Factitious.
En vrai, c'est Elodie qui nous a filé le lien à tous les deux.
Merci Elodie. Et en fait, c'est un entraînement. Ils vous montrent des articles entiers pour voir si jamais ils sont vrais ou faux.
très instructif.
Voilà.
Ouais, et
bref.
Ça permet, en fait, c'est une analyse bête. En gros, on dit, on a l'article, on dit oui, non. On peut vérifier la source et ils nous apprennent à vérifier les sources, regarder sur le site si, généralement, ils font des articles racoleurs ou non, s'ils citent d'autres persos ou non, etc.
Les clickbait articles, c'est en fait les trucs que vous avez à droite sur Facebook. Vous savez, on lit juste, il n'y a que le début de la première phrase, genre oh là là, quand telle célébrité s'est effondrée à telle cérémonie. Et en fait,
la 3 va vous étonner.
La 7ème va vous étonner.
C'est un clickbait, quoi.
Et du coup, sur yahoo.fr aussi, ça t'étonne.
Moi j'adore les.
Sur yahoo.fr, il y a plein d'articles comme ça, ou juste le début.
Ouais.
Et en fait, c'est juste pour te donner envie de cliquer.
La méthode pour maigrir que les médecins ne veulent pas que vous connaissiez.
Bref, en conclusion, pour pas être à mouton, faut juste un peu sortir les doigts du cul.
Et ouais, bah du coup, c'est vachement intéressant pour faire une petite synthèse. Généralement, effectivement, un petit conseil tout anodin, tout léger, mais n'hésitez pas à vérifier les sources juste avant de cliquer sur partager, même si c'est facile de cliquer. Regardez l'article original, regardez ce qu'ils ont publié d'autre, et puis au moins vous vous ferez votre avis personnel. On ne vous dira pas quoi partager, mais faites-vous votre avis.
Sur le jeu, si vous n'avez pas testé, c'est vraiment cool le petit jeu dont tu as parlé.
Factitious, c'est ça.
Factitious,
ouais, on mettra le lien.
C'est assez pertinent pour soutenir ce que tu viens de dire.
Et c'est vraiment facile en plus.
Et pour défendre quand même, il y a des très bons articles sur le Figaro quand même.
Absolument.
Je tiens à dire.
Et sur le Parisien sur aussi.
Et puis il y a d'autres journaux qui font aussi ce genre de manipulation.
Ce n'était pas du journaliste bashing du tout.
Oui.
Loin de là.
Même si
oui, alors moi j'aime quand même pas le Figaro, je tiens à le dire.
Même si on n'aime pas la ligne éditoriale d'un journal, il y a quand même de très bons journalistes dedans.
Tout à fait.
Donc, voilà.
Est-ce que ce serait pas l'heure du chaos?
Allez, le chaos.
Je vais le rappeur qui pleurniche avec une grognasse au micro, moi c'est Nico. Et dit que nos futurs et nos futurings sur mes instrus, je veux pas de rappeurs qui viennent faire figurines, ça sert à rien.
Merci Nicus du groupe Vinkels. Un de mes groupes de rap favoris. Donc moi je vais vous parler de deux choses que les gens font dans la musique en se disant tiens, ça a l'air d'être une bonne idée, donc on va essayer. Je vais vous présenter des collaborations musicales, spécialité rap français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Je tiens à dire que, enfin, est-ce qu'on peut faire juste un tour de table à savoir qui connaît absolument rien rap français? Je lève la main.
Quasiment, enfin, plus ou moins.
Je vous ai mis des trucs faciles, vous inquiétez pas.
Absolument rien, mais pas la folie. Ouais.
Moi, MTV a fait mon éducation quand j'étais ado, c'est tout.
Je vais vous mettre la première et on va voir tout de suite.
Le but, c'est quoi? C'est qu'on devine les artistes?
C'est ça.
Le featuring, donc.
Les deux.
Ah, mais bien sûr.
MC Solar et Calogero. Calogero.
Et non.
C'est pas Calopassy.
Ah, pas Calopassy.
Jeune pour me dire.
Alors, est-ce que vous connaissez Passy?
Oui.
On va se le mettre quand même.
Est-ce qu'on a le droit de chanter?
Non.
C'est fortement encouragé.
On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de
peau. Panier à la balle.
Tu connais les paroles. Quand on vit le ghetto, laisse les taux autour du
cou comme Cosette pour Hugo. Il y avait aussi des gens de mauvais goût qui m'offraient des singles.
Ça me fait penser à l'épisode de Bloqué quand il y a Gringe qui dit à Aurel San à chaque fois que je vais en Bretagne.
Oh. On sait ce qui vient de se passer. Là pour le coup, j'ai la référence.
Pas moi.
Je peux gruger. Par contre, je crois qu'il y a la SACEM qui a tapé à la porte.
L'épisode de Bloqué où il y a Gringe qui dit à Aurel San à chaque fois que je vais en Bretagne, j'ai la chanson de Calogero et Passy en tête et Aurel San qui dit ah ouais, laquelle. J'en profite pour placer un gros big up à un groupe que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui s'appelle Juan. Ultra Vomit.
Oui, Ultra Vomit, c'est Calogira.
Et ils ont
ils ont mélangé Passy, Calogero et Gojira.
Et ça donne
Calogira.
Oh my god.
Alors c'est du métal humoristique.
Ouais, je tiens à dire que leur dernier album s'appelle Panzer Surprise. C'est excellent parce qu'en fait chaque chanson est une parodie d'un groupe de métal différent. Okay. Ça c'était une parodie de Gojira en reprenant Calogero et c'est formidable, je vous invite à l'écouter.
C'est fascinant. Alors du coup, est-ce que vous connaissez Passy?
Oui.
Parce que franchement, le truc le plus connu
sur la 6, non?
Le truc le plus connu qu'il a fait, c'est pour moi c'est son duo avec Calogero. Mais à la base, il a fait des trucs tout seul. Qui sont.
Ça me dit quelque chose.
Ah. Ça parle encore de ligne de métro. La 3, la 4, la 5, la 6. Ça me dit des choses.
Donc, Passy, c'est un mec qui était dans un collectif qui s'appelle le Ministère Amer. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah, bah oui, non, mon papa à moi est un gangster.
Ah putain.
Je crois que ma sœur avait le single. Papa à moi est un gangster.
Il fait partie du ministère amer.
sorti tout droit d'une... J'ai mis pause et j'ai cru que ça avait pas marché.
On a perdu Juan.
Donc ce ministère amer, il a fait un duo avec un artiste français. Je vous laisse deviner.
Francky Vincent.
Mes baskets blanches, mes locks, l'encre a coulé comme
c'est lui ça.
Renaud.
Au fond des blocs, enfant des îles, fils d'une
ça, c'est le ministère amer.
L'idole des jeunes d'entre elles sera quelque chose. Le même.
De porte de la chapelle aux ondes hertziennes. À l'heure où le
monde... Oh, Johnny,
Johnny.
Oh, et oh, oui.
Ministère amer.
Oh, une grosse collab.
Ministère amer et Johnny Hallyday.
Ah, putain. J'espère que ça passera à la radio. Quand
j'en ignore la raison.
Tu crois qu'il s'en rappelle, Johnny?
On va pas parler de la santé de Johnny.
Il se rappelle pas où sont ses pompes déjà. Oh.
Dans le ministère amer, il y avait aussi un autre mec, Doc Gynéco.
Oui.
Ah. Il a fait un featuring
avec Nicolas Sarkozy. Ça s'est très mal
passé.
Fallait que tu la fasses ou je le répète.
Et ben, franchement, t'es pas très loin de la vérité.
Large et rancard. Ah bah Jean Sarkozy. Appelle
les stars, écoutez bien, magnifique voix. Touchez mais pas
couler. Merci. François Fillon. Sur ce.
Jean-Pierre Raffarin.
Il a dit j'ai rancard avec Nanar.
Bernard
oh
Tapie.
Non,
Bernard Tapie.
Oui, il a fait la chanson, c'est vrai.
Bernard Tapie.
Oh là là.
Donc Doc Gynéco, Bernard Tapie. Alors pour ceux du fond qui suivent pas, Doc Gynéco, c'était ça. Moi je suis né ici dans la misère. Je trouve quand même que c'était plus réussi que sa collaboration avec Bernard Tapie.
Ouais, si je peux me permettre, Doc Gynéco, c'était pas toujours très très propre. Hein. Je vous souviens de paroles qui disaient réviste et mathématiques en mesure en matrique.
Oh,
c'était pas ce qu'il y avait. La rime est là, mais le fond n'y est pas.
Excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'étonne dans un mec qui s'appelle Doc Gynéco?
Autant pour moi, je suis pas coupable.
On va continuer dans le rap français. Je vais vous passer un extrait, et si vous devinez, je vous paye à tous une pinte de bière.
Allez.
C'est du rap ?
C'est patata, ça.
C'est une reprise. Applaudissez au pluriel,
Mokobé et Ariel. Magic System ?
Non, trop facile.
Mokobé, du coup ?
Oxmo ? Non, ça me ferait mal au cœur, mais...
Oxmo.
Bah, ça me ferait mal au cœur, mais...
Alors, Bac, non ?
Pour ceux qui n'ont pas bien entendu...
Donc, il a dit Mokobé, c'est
du
ça
coup, ça compte plus. Mokobé.
Ouais, Mokobé, pour moi, c'est Magic System.
Un demi.
Ah non, c'est pas dans Ryan B. Fever. Ils en parlent.
Non. il y a Mokobé.
Alors, ça,
et...
par contre, en Arabie Saoudite, ça y est.
Alors, qu'est-ce qu'il chantait, ce monsieur Chocobon ?
Mokobé et Ariel. Et à votre avis, c'est qui Ariel ?
Ariel Dombal.
Ariel Dombal.
Non. Non.
Avec Mokobé.
Qui l'aurait cru ?
Lady Babtou.
Pour
au
ceux
micro.
Qui connaissent pas Mokobé, il a chanté dans un groupe qui s'appelle Le Centre. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Lélélé. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Lélélé. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. Lélélé. J'irai finir mes jours là-bas. Waouh, waouh, waouh. Félicitations.
On
est vieux. Est-ce que vous connaissez des collaborations insolites que le 113 aurait pu faire?
Magic System.
Laisse parler les gens.
Et de suite ton salon se transforme en saloon.
Je connais pas mes amis.
J'avoue, j'ai triché, donc j'ai vu, donc je ne dirai pas, mais c'est vrai qu'on peut deviner. Oui, je pense que tu l'as. Je pense que tu l'as.
Daft Punk.
Oui,
exactement.
Ah
je l'ai dit avant toi. Et je l'ai dit ça vraiment au hasard.
Ouais,
juste le son robotique.
On a piraté la tête.
Pour les puristes, c'est juste Thomas Bangalter.
Voilà, j'allais dire Daft Punk n'a jamais fait de feat avec. C'est juste Thomas.
Ouais, mais Thomas, il avait quand même son casque de Daft Punk.
Ouais.
Le prochain, je vais vous.
Le mimer. Ça va être long, mais.
Non, je vous conseille d'essayer de trouver. Vous pouvez trouver les deux. Un blouson ou
un portable. Florent
Patrick Bruel.
Patrick Bruel. Oh.
Ça va, c'est pas du rap, je reconnais.
Félicitations. Et il y a un petit rappeur qui arrive, qui a cru bon s'inviter sur cette chanson.
Faudel.
Transition.
Désolé, mais le beat est bon.
Le beat
vient
pas de
Panam, mais de Marlick Gaumont.
Oh oui, Camini.
Non, j'ai juste référence à le beat est bon.
Il a une voix de merde.
Alors moi, je connais vraiment rien en rappeur, encore une fois.
Si je vous dis Funny Babe.
Ah non.
Funicoli.
C'était la fouine.
Ah bah c'est bien.
Ah. Mais c'est pas la fouine.
Gros, moi j'ai toujours été élevé à Led Zeppelin, oui. Non, je sais pas de quoi tu me parles.
Je crois qu'on parle de musique.
Bon bah parlons musique justement.
Ah.
J'en ai un dernier. Ça c'est le rappeur.
Joy Star.
Bien vu.
Amadou et Marion.
Non. Nicoletta.
Nicoletta.
Oui. Oh.
Excellent.
Moi, j'ai triché, on m'a soufflé.
Oh, qui a soufflé?
Ma voisine.
Oh, ça va, ça compte quand même. Pour vous rappeler, Joey Starr, c'est quand même le mec qui chantait ça avec son acolyte Cool Shen dans le collectif Nique ta maman.
Lui qui faisait aussi Laisse-moi zoom zoom zen dans ta baby zoom zen.
C'est lui, hein. Avec Lord Pocity.
Oh yeah.
Et c'était tout pour moi.
Et bah ça déchire. Et bah ça va sonner la fin de cet épisode.
Oh mon dieu.
Oh, mon dieu.
J'espère que vous avez kiffé autour de cette table. C'était,
on a eu très chaud.
C'était cool.
Ouais, ils
étaient très chaud.
Mais chaud. C'était cool.
Chaud sa mère.
Mais c'était un plaisir.
J'étais super contente de découvrir le nouveau studio. Vraiment, bravo pour ce travail.
Pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook, Twitter, on s'est bricolé un nouveau studio de nos petites mains. On a posé du parquet, on a bricolé une table, on a foutu du nouveau matos.
On a encore de la sueur dans les yeux.
Ouais, c'était laborieux, mais ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir accueillir de nouvelles personnes, comme Fanny.
J'espère qu'on a été ravis d'accueillir. Ouais, merci d'être venu.
Très ravis.
On applaudit Fanny.
Oh. Applaudis-toi, Fanny, applaudis-toi. Vas-y, tu peux t'applaudir.
Non, mais merci beaucoup pour l'invitation parce que je vous confirme, les auditeurs, ils sont. Enfin, l'équipe de Pardon Maman, ils sont trop sympas.
C'est l'instant de promotion.
Non, mais vraiment, et puis voilà.
On te paye maintenant ou après, du coup
Non, mais vous m'avez déjà payé en fromage et charcuterie avant, en fait, donc ça va, je suis contente. Et donc, je conseille aux gens, mais si vous pouvez, mais venez, ils sont très très sympas.
Mais du coup, tu le dis sur notre podcast à nous, où du coup, les gens sont déjà là. C'est quand même gentil.
Mais par contre, faut juste venir jusqu'à Montreuil. Là, faut être motivé.
Ouais, bon, c'est vrai. Le studio tombe en lieu, mais ça vaut le coup. Et oui, bah d'ailleurs, on va pas l'écouter Fanny sur Pardon Maman. Alors, est-ce que t'as des endroits où on peut t'écouter?
Sur Passion Médiévis plutôt.
Des formations professionnelles. Écoutez Pardon Maman. Le
oui, bon, d'accord.
Je suis
là.
Genre,
Michel à NSA.
Bah écoutez, moi j'ai un SoundCloud, donc je suis principalement là-dessus, mais après sur iTunes, sur Podcast Addict, sur PodCloud, un peu partout, et puis il y a le compte Twitter, le compte Facebook. Donc voilà, il y aura bientôt des hors-séries, a priori.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, à la rentrée, là cool. J'ai déjà...
Oh, mais c'est de l'exclu, ça.
Et oui, c'est de l'exclu, des hors-séries.
Bon, pardon, maman, premier sur l'info.
Attends, ça nous fait une deuxième exclu, parce que les auditeurs de Passion Médiéviste savent maintenant que tu kiffes le rap français.
Ah mais non, mais j'adore, non, mais mes goûts musicaux sont très honteux en soirée, c'est très difficile. Mais donc voilà, j'ai plein de gens qui me contactent donc, pour faire les épisodes, donc je suis très très contente. J'espère pouvoir faire quelque chose de plus souvent. Mon rêve serait de faire un bimensuel. J'en rêve et j'espère donc bientôt. Bah,
ne fais pas ça, c'est une très mauvaise idée.
Non, mais là j'en ai.
On t'envoie quelqu'un d'ailleurs.
Mais écoute, là, j'ai déjà 4 personnes enregistrées et en fait j'aimerais bien avoir un bon stock, me dire là, je peux en diffuser.
Ah,
mais
trop bien.
Cool. Je suis très très contente. Mais je cherche surtout des garçons médiévistes parce qu'en fait il y a beaucoup 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 de filles. Là j'ai 4 filles enregistrées, j'aimerais pouvoir alterner un peu filles et garçons.
Bah, c'est un appel. C'est un appel, chers auditeurs.
Si vous êtes médiéviste,
si vous êtes médiéviste.
En master ou en
thèse. Très gentil, allez-y.
Ou que vous soyez en France, parce que bon, bah, je suis prête à me déplacer. Si je trouve quelques personnes dans un endroit, bah, j'y vais. Hein,
comment est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter?
Bah, Passion Médiéviste ou par mon propre compte Twitter, Fanny Cohen Moreau. Et puis, ou alors, il y a le mail qui circule aussi, n'hésitez pas, je réponds très vite, c'est garanti.
Ah, bon,
vous avez entendu.
Bah, on parle en mail, parlons-en. On est très content parce que depuis l'épisode, on a répondu à certains de nos auditeurs, on a reçu encore plus de sujets. Donc c'est cool parce que ça nous fait plaisir de pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Pardon Maman Podcast, sur Twitter, @PardonMamanPod. Et on a un mail aussi que vous pourrez trouver à d'autres endroits, mais PardonMamanPodcast@gmail.com. Donc n'hésitez pas.
C'était la séquence la moins radiophonique de tout l'univers.
Mais vous nous retrouverez dans tous les cas. Et puis encore un merci à nos auditeurs en fait, parce que ça fait vachement plaisir. On voit vos écoutes, on voit que vous nous suivez, ça nous fait vraiment plaisir. Pour info, on a refait un deuxième petit tour sur la top page de Deezer, section podcast. Donc on est
on dans un manteau de France Inter.
On est plus comment dire, plus content de votre suivi. Enfin voilà, on est vraiment très très heureux que vous nous suiviez, parce que tout ça c'est grâce à vous. Et puis dans tous les cas aussi, n'hésitez pas à nous suivre, à nous faire part de vos remarques, etc. Pour nous faire plaisir, vous pouvez aussi mettre 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Toujours.
En fait, 5 petites étoiles où vous voulez finalement, parce qu'iTunes c'est très bien, c'est très bon pour le référencement, mais même envoyer un petit message, ça nous fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi nous proposer des sujets, parce que jusque-là on est assez content, on en a traité quelques-uns. Il y a des sujets de merde aussi, donc
hashtag pup,
genre les papillons.
Voilà. Néanmoins, je me demande, je spoil, mais Herman nous a parlé du vinaigre.
Ah oui, le vinaigre blanc. Oh putain, je suis chaud sur ce sujet.
Herman de Pim Pam Poum. Donc.
Les bienfaits du vinaigre blanc. Ouais,
Herman,
bien,
Herman,
les âges.
J'ai envie de te dire, peut-être.
Challenge. Challenge.
Cliffhanger.
Et dans tous les cas, pour nous, comme d'habitude, c'était un plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Bisous.
Allez, ciao.
Salut, ciao.
Bisous.
Qu'est-ce que c'est, ce machin? C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu une connerie?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Dis!
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.